Cette émission vous est présentée avec la fabuleuse participation de Pierre Mbiz, Damien Van Achter, Peyo Boubou, Mathieu Drimonakos, Stéphane Depierrepont, Laurent Mallory, Choumi, Sibarf, Seb G et Arnaud Landry. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, un épisode un petit peu spécial. Nous sommes fin juin et c'est un épisode qui est préenregistré. Vous savez que même quand je ne peux pas faire un épisode du Rendez-vous Tech, je ne vous abandonne jamais, surtout depuis que c'est le Patreon qui me fait vivre. Mais bon, heureusement, je me dis, vous avez l'expérience de savoir pendant 5 ans avant que c'était déjà le cas, que je ne lâchais jamais un épisode, ou presque jamais un épisode. Je ne vous laissais pas avec un épisode absent. Et c'est le cas encore aujourd'hui avec un épisode un petit peu spécial, comme je le disais, où on va essayer de s'adresser aux gens qui ne sont pas hyper consciencieux de leur hygiène informatique. Je me suis dit qu'il serait intéressant de reprendre un petit peu les bases de ce qu'il faut faire avec vos mots de passe, les chiffrements, les VPN, la double authentification. Et parce que en fait, je me suis rendu compte que même moi qui suis un connaisseur quand même de la chose technologique, il y a des choses que je fais, il y a des choses que je comprends, mais même moi, il y a des choses que je comprends pas parfaitement bien. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de choses comme les gestionnaires de mots de passe ou même de la double authentification et qui savent pas très bien concrètement comment ça marche, comment il faut faire pour les activer, les utiliser, et qui n'ont en fait des idées qui ont des idées un petit peu nébuleuses sur la manière dont ça fonctionne vraiment. Et encore une fois, c'est pas juste les vrais débutants. Moi aussi, il y a certains concepts qui sont un petit peu encore nébuleux, comme je disais. Donc voilà, on va faire un épisode sur l'hygiène informatique, la sécurité, le chiffrement et tout ça, comment bien débuter dans ces domaines. Et comme pour moi, je le disais, certains de ces concepts ne sont pas hyper clairs, j'ai sollicité l'aide de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, à savoir Jérôme, alias Genma. Alors, je prononce bien le Genma et on va expliquer juste rapidement de quoi il s'agit. Mais avant tout, bonjour Jérôme et merci d'être ici.
Oui, bonjour Patrick, bonjour tout le monde, et très content d'être avec toi pour cette émission.
Tu es est-ce qu'on peut dire que tu es un expert de sécurité informatique ou c'est pousser un petit peu la description ?
C'est pousser la description très loin. En fait, moi je suis plus un utilisateur éclairé, mais je côtoie, on va dire, des experts dans la sécurité. En fait, on va dire des activistes, des hackers, des gens, un petit peu comme ça. Donc moi, je suis plus à côtoyer ces genres de personnes. J'apprends beaucoup auprès d'eux. Et c'est grâce à eux que j'ai un niveau, on va dire, un petit peu plus haut que le commun des mortels. Mais je n'ai pas du tout la prétention d'être, quelqu'un qui est un expert. Ouais.
Et justement, la raison pour laquelle j'ai pensé à toi pour cette émission, c'est que t'es un utilisateur normal, mais en même temps, tu côtoies donc, le sujet t'est très familier et tu fais beaucoup de vulgarisation et d'explication de ces sujets. Je sais que tu participes notamment au café privé auquel malheureusement j'ai jamais encore pu venir, je m'en excuse, sur Paris et d'autres initiatives de ce type-là. Tu peux nous en dire deux mots?
Oui, effectivement. Donc, en fait, je participe à un collectif qui s'appelle les Cafés Vie Privée. Il y a plusieurs appellations. Il y a aussi Chiffre au Fait, qui est en fait une francisation de crypto-party. Alors, pour recadrer un petit peu, c'est qu'au départ, il y avait, les crypto-party. Donc, c'est des endroits, des réunions d'hackers qui se tenaient dans un endroit un peu underground qu'on appelle des hackerspace, où ils discutaient entre eux de comment améliorer, les technologies autour de tout ce qui est cryptage, chiffrement, etc.
Et ouais, je crois qu'il faut dire chiffrement, sinon on se fait taper sur les doigts aussi.
Oui, donc les puristes vont dire il faut dire chiffrement. Ouais. Moi, je suis j'utilise les deux mots parce qu'il faut s'adapter au vocabulaire que les personnes connaissent. Donc indifféremment, je serais susceptible d'utiliser cryptage ou chiffrement dans la conversation qu'on pourra avoir.
D'accord.
Et donc la volonté des cafés privés, c'est d'apporter ces technologies-là au grand public, en fait, de sensibiliser les personnes. Il y a différentes problématiques. On peut aller très loin dans l'utilisation de ces technologies-là. Et plus on en apprend, plus on se dit il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc les cafés privés, c'est un peu d'expliquer il y a ça qu'on peut protéger. Comme on va voir, comme disait les mots de passe, c'est quoi une double authentification, c'est quoi le chiffrement. Et après, selon les besoins des personnes, selon leurs contraintes, ça peut être des contraintes professionnelles parce que je suis avocat, médecin ou autre et je suis amené à manipuler des données sensibles, comment je peux les protéger, ou je suis un activiste, donc quelqu'un qui va contribuer dans le côté technologique pour tout ce qui a été les printemps arabes, des choses comme ça. Et donc il y a vraiment un panel où je suis administrateur système, donc il y a vraiment un panel de personnes assez large. Et selon les personnes présentes, donc on fait différents types d'animations. Donc on essaye, ça peut être soit de l'hygiène numérique, donc on va dire un petit peu expliquer les bases, partir sur de bonnes bases, avec d'autres, comme je disais, donc des gens qui sont beaucoup plus au niveau, où là on va voir comment faire un serveur de mail sécurisé, chiffré, crypté, tout ce qu'on peut imaginer.
D'accord. Voilà. Oui, donc effectivement, ça s'adresse un petit peu au type de public qu'on vise, donc c'est parfait. Et je vais dire juste quelques mots aussi sur ton pseudonyme, donc Genma, qui moi me fait particulièrement plaisir parce que c'est un personnage d'un dessin animé que je suivais que je suivais avidement à l'époque. C'est Ranma 1/2, Ranma Nibun no Ichi,
qui parfait,
n'est-ce pas? Bah écoute, ouais, quand même, j'ai de la pratique. Et c'était donc le père de Ranma qui se transforme en gros panda qui est tout à fait sublime et qui me rappelle de très bons souvenirs. Donc tu confirmes, hein, je sais qu'il y a ton icône, enfin ton avatar de panda Genma partout, mais tu confirmes que c'est bien de l'Axavien.
Oui, je confirme tout à fait, c'est vraiment ça. Pour la petite histoire, c'est que avant les années 2000, moi j'étais dans la sphère qu'on appelait otaku à l'époque, c'était très lié à la Japanime, etc. C'était assez confidentiel en France.
Je connais très très bien, oui.
Ouais, moi je suis un enfant du club Dorothée, on va dire, et donc quand le club Dorothée s'arrêtait, moi je cherchais à continuer à regarder ce type de dessin animé, etc. Donc on avait des petites communautés qui se formaient. C'est avant que Japan Expo existe, je suis un vieux de la vieille, j'ai vu Japan Expo apparaître en France. L'institut où on était, tout le monde avait des pseudos japonisants, on va dire, et des Akira, etc. Il y en avait des tas, mais personne n'avait un pseudo du monde de Ranma 1/2. Et moi, comme j'aimais bien les pandas, je me suis dit, tiens, panda, Ranma 1/2, Genma. Et ce pseudo est resté depuis.
Très bien. Je connais bien tout ça. Hein. J'y ai participé aussi. Et c'est vrai que la plupart des gens prenaient des pseudos, des trucs genre effectivement Akira, Sangoku, des trucs des super forts qui détruisaient des planètes. Et il y avait peu de gens qui prenaient le pseudo d'un gros panda. C'est tout à ton honneur. Je trouve ça magnifique. Bon, écoutez, on va se lancer donc dans le cœur de l'émission avec un sujet facile pour commencer quand même, les gestionnaires de mots de passe. Alors, je pense que la plupart des gens savent à peu près de quoi il s'agit. Les gestionnaires de mots de passe, ce sont des logiciels ou des services qui vont s'attaquer à un problème quand même qui est de plus en plus connu des utilisateurs du net et des acteurs du net, c'est le fait que les mots de passe est étrangement, contrairement à ce qu'on pense, un système d'accès aux données, de protection des données qui est très faible. Et d'autant plus depuis que les services se multiplient et que les mots de passe nécessaires se multiplient eux aussi. C'est-à-dire que les mots de passe sont généralement, il y a deux façon de faire les mots de passe. Soit on fait des mots de passe simples qui sont à ce moment faciles à craquer, soit on fait des mots de passe compliqués qui sont très difficiles à retenir. Et donc, si on en a plus de 5-6, ça devient tout de suite compliqué de tous les retenir. Et donc, on en arrive soit à utiliser un petit peu les mêmes, soit à noter les mots de passe sur des post-it. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soit se reconnaissent, soit reconnaissent des amis ou des collègues à eux qui ont les post-it collés sur l'ordinateur. Alors évidemment, c'est pas forcément la fin du monde. Ça veut pas dire que vous allez vous faire hacker immédiatement dans la seconde où vous allez poser votre mot de passe sur l'ordinateur ou que vous allez utiliser un mot de passe simple. Mais c'est pour ça un petit peu qu'on parle d'hygiène. C'est pas non plus parce qu'on se lave pas les mains à chaque fois qu'on sort des toilettes qu'on va devenir, qu'on va tomber malade immédiatement. Mais il n'empêche que c'est quand même pas mal de se laver les mains quand on sort des toilettes. Et là, vous sentez que je m'énerve. C'est pas que je m'adresse à quelqu'un en particulier, mais j'ai peut-être eu quelques expériences, spéciales. Donc, c'est une question d'hygiène. Et l'hygiène en informatique, c'est important aussi parce que de plus en plus, on met nos vies entières dans ces services et derrière ces mots de passe. Je disais, les mots de passe sont pas hyper bons pour protéger la vie privée, pour toutes ces raisons. Et il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à s'intéresser à d'autres moyens de pouvoir accéder à nos comptes, des moyens sans mots de passe. Parce que, oui, les mots de passe ne sont pas la solution forcément ultime qui fonctionnera à jamais. C'était adapté au début, mais aujourd'hui on sent que ça n'est plus forcément le cas. Mais d'ici à ce qu'il y ait des moyens incroyables de bio-informatico-chiffrement psycho-magique, jusqu'à ce que ça arrive, et il y a des gens qui travaillent sur des moyens de protection des données assez surprenants, eh bien jusque-là il faut trouver des solutions alternatives, et l'une des solutions c'est les gestionnaires de mots de passe. Il y en a divers types, il y a divers services. Il y a des services un petit peu de tous les grands acteurs du net sous différentes formes. Alors on sait que Google en propose un dans Google Chrome, dans le navigateur Google Chrome. Apple a son Keychain qui vous propose de retenir les mots de passe aussi. Il y en a d'autres. Et il y a des services externes, comme LastPass ou 1Password, ce sont les deux plus connus. Je crois qu'il y a, c'est pas Dashlane, c'est un autre service. Si je ne m'abuse, il y en a un qui est géré par un Français. Moi, celui que j'utilise, c'est LastPass, et je le trouve pas mal. Il y a un petit abonnement pour utiliser l'application mobile, mais on n'est pas obligé de l'utiliser, on n'est pas obligé de payer, même si moi, je veux payer parce que c'est un système que je trouve vraiment bien conçu, qui a reçu l'aval de grands experts en sécurité, qui fait qu'il est a priori assez sûr. Et la manière dont ça fonctionne, c'est très simple. C'est que vous allez avoir, donc, vous allez vous abonner à ce service, enfin, vous abonner payant ou non payant, et vous allez créer un mot de passe très complexe et difficile à retenir, a priori, pour accéder à ce service. Et ensuite, tous les mots de passe que vous allez utiliser pour d'autres services vont être stockés chez ce service de gestionnaire de mots de passe. Il va y avoir ensuite un accès possible par le web et des extensions pour les navigateurs qui vont remplir eux-mêmes les mots de passe, les informations de login et de mots de passe quand vous arrivez sur un site qu'ils gèrent. Donc, ça simplifie beaucoup la gestion des mots de passe et il y a généralement une crainte, une critique qu'on fait envers ces services de gestion de mots de passe, qui est que si on utilise un service comme celui-ci, il n'y a plus qu'un point de faille, one point of failure, comme on dit en anglais, c'est que si quelqu'un découvre ou trouve ou hack votre accès à ce service-là, eh bien, vous avez perdu tous vos mots de passe et vous avez perdu toute votre vie, en fait. Enfin, tous vos comptes sont accessibles parce qu'il y a toutes les infos qui sont gardées sur ce service unique. C'est Alors vas-y, oui, n'hésite pas à l'interrompre.
Oui, ouais, bien sûr. En fait, l'image qu'il faudrait comprendre, c'est un petit peu, là, on va prendre un coffre-fort numérique dans lequel on va mettre tous ses mots de passe. Et donc, comme tu disais, le single point of failure, c'est le code qu'on va mettre sur le coffre-fort en question. Et donc, plus le code sera simple, plus c'est facile d'ouvrir le coffre-fort. On n'aura pas besoin de, essayer de casser le coffre-fort haut parce qu'il a vraiment des murs très épais. C'est juste que si c'est un code à 4 chiffres, en testant toutes les combinaisons possibles, on va ouvrir le coffre très facilement et récupérer ce qu'il y a dedans. Donc, comme tu disais, c'est que là, le mot de passe du gestionnaire de mot de passe est vraiment celui qui est déterminant et le plus important.
Alors, du coup, est-ce que c'est pas moins sécurisé d'utiliser un gestionnaire de mots de passe que d'utiliser soi-même des mots de passe qu'on va avoir différents? C'est la question qu'on peut se poser tout de suite. Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais bien entendre la tienne.
C'est vrai que, idéalement, si on utilise des mots de passe différents sur tous les comptes, à chaque fois qu'on, quelqu'un qui va utiliser, à l'heure actuelle, c'est beaucoup un compte, c'est notre mail comme login et un mot de passe pour s'identifier. C'est quelqu'un qui connaît notre mail, qui connaît un petit peu les services qu'on utilise. Par exemple, on sait que j'utilise Twitter, mon mail il est assez connu. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre, mon mail comme login et tester un certain nombre de combinaisons de mots de passe. Mais même si on trouve le mot de passe du compte Twitter, après, il faudra essayer sur le compte Facebook, où là, c'est un autre mot de passe, etc. Donc, on peut se dire qu'effectivement, un mot de passe qui est complètement différent sur chaque service est peut-être plus sécurisé qu'un mot de passe faible sur un password manager. Le password manager, c'est bien, mais comme tu disais au départ, il faut utiliser donc des mots de passe différents et un bon mot de passe pour verrouiller le password manager en lui-même.
Et le truc qui est, tu parlais de pragmatisme tout à l'heure, moi je crois qu'il y a un problème qui est vraiment important quand on n'utilise pas de gestionnaire de mots de passe, c'est que on va en théorie utiliser des mots de passe différents et complexes sur tous les services qu'on utilise, mais sincèrement il y en a tellement que il me semble utopique de se dire qu'on va vraiment utiliser des mots de passe complexes différents pour tous les services qu'on utilise. À la limite, vous allez en utiliser un différent pour votre compte Facebook, votre compte mail et peut-être deux ou trois services que vous utilisez beaucoup qui sont très importants. Mais après ça, vous n'allez pas utiliser à la fois pour, je sais pas, les forums sur lesquels vous allez et puis le compte eBay que vous utilisez une fois tous les 6 mois et le compte, je pense toujours au Bon Coin, etc. Toutes ces choses-là, quand vous commencez à accumuler 15, 20, 30 services, au bout d'un moment, vous allez utiliser soit des mots de passe beaucoup plus simples, soit des mots de passe similaires. Et comme on sait qu'il y a souvent des problèmes sur ces services qui vont se faire hacker de temps en temps, si vous avez utilisé un mot de passe similaire sur ce service que vous n'utilisez quasiment jamais et sur d'autres que vous n'utilisez jamais, si vous vous faites hacker celui-là, vous allez vous faire hacker tous les autres. C'est quelque chose qui marche en théorie, d'avoir des mots de passe différents et complexes, mais en pratique, il faut bien avouer que c'est vraiment difficile à faire. Et là où les gestionnaires de mots de passe vont intervenir, c'est que ils vont vous remplir eux-mêmes les formulaires de login quand vous allez vous connecter à un nouveau service, enfin à un service sur lequel vous avez déjà un compte. Et en plus, ils vont vous créer des mots de passe très complexes qui sont en fait impossibles à retenir, qui peuvent avoir, 12 ou 16 ou 20 caractères avec qui sont des séries de chiffres et de lettres et de caractères spéciaux que même vous n'avez pas besoin de connaître. Donc vous pouvez tout à fait vous créer des mots de passe que même vous ne connaissez pas, que seul votre gestionnaire de mots de passe connaît et qu'il va vous remplir tout seul quand vous vous connectez. Donc là, pour le coup, en particulier pour tous ces services dont vous ne vous servez pas énormément, vous pouvez utiliser ce gestionnaire de mots de passe, à la limite, si vous n'êtes pas sûr de vouloir y mettre toutes vos données importantes, vous pouvez l'utiliser même pour tous ces services qui ne vous paraissent pas si importants que ça. Et du coup, vous allez avoir des mots de passe vraiment sécurisés, vraiment différents sur tous ces services-là, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier de ces services-là. S'ils se font hacker, au pire, vous changez le mot de passe et c'est terminé.
Là, je pense que c'est une très bonne approche, c'est un très bon compromis. Justement, c'est pour tous les services pour lesquels on n'utilise pas régulièrement le mot de passe. On va se dire, bah, je mets un mot de passe que je connais, que j'ai l'habitude d'utiliser, parce que si je m'en rappelle pas, bah, je sais que je teste parmi les 3-4 que je connais et que j'utilise habituellement. Là, ce que dit Patrick, effectivement, c'est une très bonne idée. C'est tous les services qui n'ont pas forcément, comment dire, que j'utilise pas quotidiennement ou autre, bah, je vais les mettre dans un gestionnaire de mots de passe, et comme ça, j'aurai un mot de passe différent. Et comment dire, ça sera stocké. Après, faut pas oublier le mot de passe, donc du password manager en question, parce que sinon on perd l'accès à tous ces mots de passe, parce qu'on avait eu des mots de passe différents, qui ont été gérés par le logiciel en lui-même. Si on oublie le mot de passe du logiciel, bah on est un peu embêté.
Évidemment. Ceci dit, il y a toujours la solution de secours qui est de faire un reset du mot de passe. Si jamais vous avez un problème grave avec votre gestionnaire de mot de passe et que vous voulez accéder à un service ou un autre, eh ben vous pouvez aussi faire une remise à jour de votre mot de passe. C'est un petit peu pénible, effectivement, surtout si vous en gérez beaucoup, mais vous allez avoir la procédure classique. Vous recevez un mail sur l'adresse email qui est associée à votre compte. Vous allez pouvoir remettre à zéro le mot de passe. Donc, je pense qu'on n'est jamais complètement, complètement perdu à ce niveau-là.
Et on voit que là, le point névralgique, c'est le mail en question.
Tout à
Donc
fait,
c'est
tout à
vraiment,
fait.
c'est comme on reçoit en fait tous les mots de passe de reset de mail, de réinitialisation des mots de passe de différents services sur notre mail principal. On verra, bah, je pense après, c'est le deuxième point qu'on voulait aborder ensemble. Ça sera, comment dire, le mail où là il faut avoir le mot de passe le plus sécurisé possible et d'autres techniques qu'on va voir par la suite. Un petit peu de teaser.
Ouais, bah on va y arriver très
Ouais, on va y
bientôt.
arriver, ouais. Et
Oui,
je voulais
vas-y,
juste
dis.
rajouter par rapport au mot de passe. On a déjà, comment dire, il y a des personnes qui disent, ah bah ce qu'on peut faire, c'est utiliser une racine commune. Par exemple, je sais pas, moi je vais prendre Toto comme racine, et après faire des déclinaisons selon les comptes. Par exemple, je vais dire, bah voilà, bah, mon mot de passe c'est Toto 1234, et pour Twitter, ça va être Twitter Toto 1234, pour Facebook, Facebook Toto 1234, pour Gmail, Google Toto 1234. Donc ça fait des mots de passe assez longs qui sont faciles à retenir parce que bah, on a une racine commune et puis après c'est selon le service on rajoute le mot qui est comme il faut. Sauf que si quelqu'un trouve l'algorithme qu'il y a derrière, il veut très facilement avoir accès à tous les comptes parce qu'après bah, il se dit tiens j'ai trouvé pour Twitter et Facebook, bah, je vais essayer Skype et ça va être Skype Toto 1234. Donc c'est pas une bonne méthode.
Tout à fait. Il vaut mieux avoir des mots de passe vraiment
Des mots de
différents.
passe, ouais, des mots de passe différents. Et à l'heure actuelle on passe de phrase, on parle beaucoup de, pardon. Excusez-moi.
Vas-y,
On parle
y a pas de
beaucoup de,
souci.
ouais. On parle beaucoup de ce qu'on appelle des phrases de passe. Une phrase de passe, en fait, c'est comme un mot de passe, sauf que c'est une phrase, mais pas une phrase au sens qu'il y a un sens. Donc, c'est pas une phrase issue du dictionnaire, parce que c'est, comment dire, on arrive dans un monde où plus on complexifie la sécurité, plus les attaquants complexifient leurs attaques. C'est-à-dire que au départ, un mot de passe comme Toto, ça suffisait. Maintenant, ils vont tester toutes les combinaisons possibles. Donc on a dit on va utiliser des phrases de passe. Ça veut dire qu'on mais si on prend des phrases de dictionnaire, maintenant ils prennent que vraiment des livres et ils vont tester énormément de phrases.
Oui,
Donc
on en avait parlé il y a
ouais, c'est pour ça. Ouais, tu en avais parlé.
quelques
Ouais, il y a
ouais, il
quelques
y a quelques
épisodes.
mois. Et pour bien expliquer, en fait, grâce à la puissance des ordinateurs qui est grandissante, eh bien il y a des systèmes qui testent en boucle les différents mots de passe qui pourraient décrypter les fichiers obtenus par les fichiers chiffrés obtenu par des hacks de différents services. Et donc, ils testent pour déchiffrer le mot de passe qui a été chiffré. Ils disent, par exemple, bah, je teste Toto 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça déchiffre ce mot de passe? Non. OK, je vais en tester un autre. Est-ce que ça déchiffre ce mot de passe? Non. Et au fur et à mesure, on finit par en trouver. Et donc, il y a des ordinateurs et des systèmes et des logiciels qui permettent de tester, non pas pour ne pas tester toutes des séries de chiffres qui n'ont aucun sens, de chiffres ou de lettres ou de caractères spéciaux. Ils vont tester tous les mots du dictionnaire, et puis tous les mots du dictionnaire avec des années. On s'est rendu compte, par exemple, que beaucoup de gens utilisaient un mot du dictionnaire avec leur année de naissance derrière. Donc, ils vont tester d'abord tous les mots du dictionnaire avec toutes les années de naissance entre 1900, je sais pas, 1950 ou 1960 ou ce que c'est, peut-être 1900 et telle et telle année. Donc, ça va réduire le nombre de combinaison à tester, même si ça en fait des milliards, eh bien les ordinateurs aujourd'hui peuvent en tester des milliards par minute, peut-être même par seconde. Donc
Tout à fait.
voilà.
Oui, c'est un très bon exemple. Et donc, l'adage dit plus c'est long, plus c'est bon. Et donc, un mot de passe long est, comment dire, peut-être plus facile à retenir, mais plus complexe en termes de piratage informatique qu'un mot de passe simple. Si je prends, Roxor 1, 2, point d'exclamation, point virgule, point d'interrogation, il va y avoir peut-être 8 caractères, ça me semble très compliqué. Surtout si j'ai mis Roxor avec des zéros au lieu des O, etc. J'ai fait du leetspeak. Mais c'est un mot de passe qui a 8 caractères. L'ordinateur, lui, qu'il y ait comment dire, des points d'interrogation, des points d'exclamation, des lettres spéciaux, pour lui, c'est, il va tester les 26. Donc pour chaque caractère, il va tester les 26 lettres de l'alphabet et éventuellement les caractères de ponctuation. Mais ça rajoute peut-être une dizaine de caractères différents. Donc le nombre de combinaisons, et sur s'il n'y a que 8 caractères au final, est limité. Donc la phrase de passe, c'est il faut prendre différents mots qui n'ont aucun sens entre eux, mais qui pour nous, vont signifier quelque chose. On se crée presque une histoire. Par exemple, on peut dire, la lune rouge et le soleil est vert. Ça fait une phrase assez longue qui fait peut-être une quinzaine de caractères. C'est beaucoup plus sécurisé que, je disais, le Roxor 1, 2, 3, 4 point d'exclamation, qui lui ne fait que 8 caractères. Et le soleil est rouge et la lune est verte, ça ne veut rien dire, mais pour nous, ça peut nous rappeler quelque chose.
Tout à fait.
Après, on peut s'imaginer, par exemple, pour Twitter, il y a souvent, quelque chose autour de la baleine. Comme ça, on se rappelle, la baleine nage dans le ciel. Ça fait rien dire du tout. Et c'est un bon mot de passe Twitter.
Pour les anciens qui se souviennent que quand Twitter était, le service était surchargé, il y avait une image de baleine. Donc, effectivement, pour certains, ça peut rappeler des choses.
Voilà, et il suffit de se rappeler, donc on a cette image visuelle de la baleine qu'on associe à Twitter, et on sait que voilà, la baleine nage dans le ciel, c'est pas une phrase qu'on va trouver dans un dictionnaire, à moins qu'on ait des livres de poésie, ou peut-être que quelqu'un l'a imaginé ça, mais il y a peu de chance.
Ouais.
Mais pour nous, humains, c'est beaucoup plus facile à retenir, on dit tiens Twitter, tac la baleine, et puis la baleine nage dans le ciel.
Donc,
c'est ce qu'on appelle une phrase de passe.
Voilà. Et donc, peut-être qu'une bonne combinaison, ça peut être d'une part le gestionnaire de mots de passe pour tous les services dont on n'est pas forcément, dont on pense que on n'en aura pas forcément hyper besoin, et pour les quelques, 2, 3, 4, 5 services qui sont hyper importants pour nous, et ben des phrases de mots de passe un petit peu complexes qui seront difficiles à deviner par un ordinateur s'ils veulent essayer de déchiffrer le mot de passe chiffré. Parce que plus le mot de passe est long, plus c'est compliqué à déchiffrer et plus ça demande du temps de calcul, puisqu'il faut faire tous les essais possibles. Donc voilà. Pour les gestionnaires de mots de passe, il y en a plusieurs. Je pense qu'ils se valent tous à peu près. Les plus connus, comme je le disais, sont LastPass et OnePassword, qui sont tous les deux très bons. Et il y a aussi Dashlane que j'ai pas testé, mais qui est peut-être intéressant à regarder aussi. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais quand on veut encore plus sécuriser nos accès à nos services, il y a un autre moyen qui est hyper important, et j'ai beaucoup hésité à mettre choisir lequel j'allais présenter en premier, parce que les gestionnaires de mots de passe, c'est très bien, et la double authentification, c'est peut-être même encore mieux et peut-être même plus important à mettre en place, au moins pour les services importants, pour les services qui vous paraissent essentiels. Et d'ailleurs, on peut utiliser un système de double authentification sur les gestionnaires de mots de passe qu'on utilise. C'est-à-dire que vous aurez un mot de passe pour votre gestionnaire de mots de passe et vous aurez en plus un système de double authentification sur l'accès à ce service de gestionnaire de mots de passe. Alors, j'explique de quoi il s'agit pour ceux qui ne comprennent pas exactement. Un système de double authentification, c'est un système qui va nécessiter deux choses pour pouvoir accéder à un service. La première chose, c'est généralement le mot de passe que vous connaissez. Et la deuxième chose, c'est généralement quelque chose que vous avez. Donc quelque chose que vous connaissez et quelque chose que vous avez. La chose que vous avez, souvent, prend la forme d'un générateur de code qui utilise un algorithme complexe qui est connu par le service que vous utilisez. Alors, un des services les plus connus, c'est celui de Google, qui utilise l'application Google Authenticator, qui est disponible sur Android et iOS, hein, c'est donc sur votre téléphone. Et vous allez activer ce système sur votre compte Google ou un autre. D'ailleurs, il y a beaucoup de services qui peuvent utiliser le Google Authenticator. Et quand vous allez vous connecter à votre compte Google de n'importe quelle machine, il va vous demander votre mot de passe d'une part et puis le code affiché par ce générateur de code, cet authentificateur. Et le code change en fonction d'un algorithme, comme je le disais, spécifique. Donc, toutes les 30 secondes, le code change. Donc, ce que ça donne concrètement, c'est que pour vous connecter à votre service, vous allez devoir avoir votre mot de passe et votre téléphone. Et donc, même si quelqu'un réussit à deviner ou à hacker votre mot de passe, eh bien, s'il n'a pas votre téléphone, il ne pourra pas se connecter parce qu'il n'a pas votre authentificateur. Bien sûr, vous pouvez dire, une fois que vous vous êtes connecté sur les ordinateurs que vous utilisez le plus souvent, vous pouvez dire à ce service de retenir le fait que cet ordinateur-là est un ordinateur de confiance, donc il ne va pas à chaque fois vous redemander le code de votre authentificateur. Vous allez pouvoir rentrer simplement avec votre mot de passe ou même rester connecté. Donc, ce contre quoi ça vous protège, encore une fois, c'est le fait que quelqu'un qui ne va pas, qui va essayer de se connecter depuis un ordinateur qui n'est pas les ordinateurs dont desquels vous vous connectez régulièrement, va avoir des problèmes. Donc, on peut imaginer qu'un méchant hacker russe ou chinois qui va réussir à hacker votre compte, lui, il sera d'un ordinateur distant que ne connaît pas le service auquel vous vous connectez ou auquel il essaye de se connecter. Donc, le service va lui redemander le mot de passe, enfin le code de l'authentificateur, et comme il ne l'a pas, il ne pourra pas se connecter. Donc c'est un bon moyen de renforcer la protection de votre accès, de l'accès à votre compte. Et comme je le disais, vous pouvez l'activer aujourd'hui sur votre gestionnaire de mot de passe, mais aussi et surtout sur la plupart des services que vous utilisez. La plupart des grands services désormais ont l'activation de cette authentification double facteur, que ce soit donc Google, Microsoft, Twitter, Facebook, etc., etc. Et ils marchent de différentes manières. Certains utilisent donc l'authentificateur Google, certains ont leur propre logiciel ou app d'authentification, certains utilisent des SMS, tout simplement. Vous pouvez utiliser donc un numéro de téléphone auquel il va vous envoyer un SMS avec un code temporaire que vous allez devoir rentrer au moment où vous vous loguez. Aujourd'hui, les SMS sont gratuits pour tout le monde, donc généralement, ça fonctionne pas mal. Et ça protège vraiment, ça augmente de manière significative la protection de votre compte. Donc, je recommanderais vraiment à tout le monde d'activer, au moins pour les services qu'ils utilisent régulièrement, d'activer l'authentification double facteur. Là encore, on peut se dire, c'est si jamais je perds mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça peut être problématique. Il y a des moyens de pallier à ce problème, mais les ordinateurs qui ont été désignés comme fiables, a priori, pourraient vous permettre de continuer à accéder à votre compte, et ça pourrait vous permettre de ne pas avoir ce problème. Mais bon, c'est vrai que c'est le point faible de ce type de service.
Bah, tout à fait. Ouais. C'est vrai que donc pour la double authentification, Google propose aussi de générer en fait une liste qu'on va imprimer en format papier de codes à usage unique. Au cas où, par exemple, son appli ne marche plus ou autre, et donc ça permet de quand même pouvoir se connecter en double authentification, même si, par exemple, on a perdu le téléphone. Donc, comme tu disais, là, c'est je vais saisir donc mon mot de passe, je vais saisir un des codes de secours que Google m'a fourni, et ça va permettre après de désactiver, par exemple, l'application qui était liée au téléphone pour pas que quelqu'un puisse utiliser le téléphone. Pour le côté SMS, moi je sais que par exemple ce que j'ai fait pour Twitter, donc on a reçoit un code à usage unique, mais c'est aussi l'intérêt, c'est que si jamais on reçoit un SMS alors qu'on sait pas, on n'a pas demandé à se connecter à son compte, on peut se dire tiens, il y a quelqu'un qui connaît mon login mot de passe. Comme je reçois le code par SMS, c'est qu'il est en train d'essayer de se connecter sur mon compte, donc il va falloir tout de suite penser à changer son mot de passe, parce que le compte est compromis. Donc c'est un bon système d'alerte aussi.
Ouais, je dirais, je sais pas si le compte est compromis, mais en tout cas, quelqu'un essaye de s'y connecter, ce qui est suspect.
Oui. Donc, quand je dis compromis, oui, c'est que quelqu'un connaît le login, le mot de passe, et essaye de se connecter. Et comme si on reçoit un SMS qu'on n'a jamais demandé à se connecter sur Twitter ou autre, donc c'est une autre approche. Et ouais. L'avantage du SMS, c'est que ça marche avec n'importe quel téléphone, on n'a pas besoin d'une application. Donc si on a un téléphone qui est pas très évolué, si on a un Nokia 3310, parce que ça marche bien, le SMS marche et on peut avoir ce côté sécurité de double authentification.
Ouais, tout à fait. Donc toi, tu recommandes aussi d'activer la double authentification partout, même si c'est...
Ah oui, c'est... Ouais. C'est plus qu'une recommandation, c'est presque une obligation à l'heure actuelle. C'est que, surtout pour tout ce qui est mail, etc. Dès qu'on a possibilité d'avoir une double authentification, faut l'activer. C'est un petit peu contraignant, mais par rapport à la sécurité relative que ça apporte, c'est mieux.
Et j'ai une question du coup, oui. Un petit peu difficile. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un mot de passe facile et la double authentification, ou un mot de passe très compliqué et pas de double authentification? Ah, c'est difficile ça, hein. C'est pas facile.
Ouais, c'est pas facile.
Les deux sont pas des bonnes solutions, mais...
Ouais. Ça dépend toujours de... Contre quoi on cherche à se protéger, c'est un petit peu compliqué. La sécurité informatique, quand on commence à se pencher là-dessus, ça peut être par exemple, on va prendre un exemple simple. Je suis au cybercafé, je vais sur un ordinateur que je connais pas du tout, donc je vais taper un mot de passe. Il peut très bien y avoir ce qu'on appelle un keylogger, c'est-à-dire un enregistreur de mots de passe qui va regarder tout ce qui se tape au clavier et le noter. Donc si j'ai un mot de passe simple ou même un mot de passe compliqué, ça sert à rien. D'où l'intérêt de la double authentification qui là va me demander un code à usage unique. C'est-à-dire que même si la personne récupère, le pirate récupère sur l'ordinateur le mot de passe qui était très long parce que je l'ai tapé au clavier, comme le code de double authentification était à usage unique, ça va bien me protéger. Donc là, on voit un exemple simple où la double authentification protège mieux que quel que soit le mot de passe. Mmh. Après, c'est pas évident, c'est...
C'est-à-dire que si, par contre, vous êtes dans un lieu où les gens vont partager les ordinateurs, si vous êtes dans un lieu, je sais pas, une entreprise où les ordinateurs sont, peut-être pas partagés, mais par contre, vous allez laisser votre ordinateur...
À l'université, ou n'importe où on utilise un ordinateur qui n'est pas le sien, même chez un ami. Parce que, comme je disais, c'est l'ami, lui, il est de très bonne foi, etc. Mais on ne sait pas quel logiciel il peut avoir sur son ordinateur. Il peut avoir installé un virus, donc qu'on appelle... Et le virus va récupérer les mots de passe qui sont tapés. Et donc, on se dit, tiens, j'ai besoin de regarder mes mails, je regarde mes mails, et hop, mon mot de passe a été récupéré par le virus, alors que, j'utilise un ordinateur, ou même son propre ordinateur à soi.
Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne solution,
je pense que la réponse, ça serait la double authentification protège plus, vu qu'on utilise en fait un autre code à usage unique.
Il y a quelques cas où un mot de passe complexe serait, je sais pas si ça serait même mieux, hein, mais donc peut-être double authentification première priorité, mais dans tous les cas, faut faire les deux.
Double authentification avec un mot de passe un peu complexe. Alors, mot de passe complexe, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément phrase de passe. Comme ça, c'est quelque chose qui est facile à taper, facile à retenir, mais on se prend pas la tête. Alors, est-ce que j'ai mis un 1 ou un 2 ou un point d'interrogation, point d'exclamation? Tandis qu'une phrase de passe, c'est long et c'est facile à retenir.
Ouais, tout à fait. Avant de passer, donc vraiment, recommandation très importante, double authentification à activer au moins sur les services que vous utilisez beaucoup. Ça, c'est, je pense, le béaba de l'hygiène informatique. Peut-être même à la réflexion que j'aurais dû en parler en premier, que c'était même plus important que les gestionnaires de mots de passe.
Non, pas forcément, parce que,
non.
comme tu disais, c'est que comment dire, le gestionnaire de mots de passe apporte une double authentification. Donc, je pense que c'est plus complémentaire.
Ouais, c'est
C'est
vrai.
plus, dans ce sens-là, c'était mieux. Ouais.
Il y a aussi une autre chose dont je voudrais parler toujours pour les questions de mots de passe avant de passer au chiffrement des mails. C'est la question et le problème des phrases de, pas des phrases, mais des questions de sécurité. Il y a beaucoup de services qui utilisent des questions de sécurité auxquelles les réponses sont souvent faciles à trouver. C'est-à-dire que vous allez avoir votre service de divers qui va vous dire bon ben on a besoin d'une phrase de sécurité pour vérifier que c'est vous si vous perdez votre mot de passe et on va vous demander quel est le nom de famille de votre mère, enfin le nom de naissance de votre mère, quel est le nom de votre prof préféré, machin. Et il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on utilise là pour ces réponses, parce que ces informations peuvent parfois être moins difficiles à trouver qu'on ne le pense. Et surtout, là aussi, on peut utiliser ces informations en double sur différents sites. Donc là encore, ça peut devenir un point de faille si jamais on ne fait pas un petit peu attention. Les gens recommandent même parfois de répondre un truc qui n'a rien à voir avec la question qui est posée pour être sûr que les hackers potentiels, là ça veut peut-être être des gens qui vous ciblent spécifiquement ou des gens que vous connaissez même, peut-être des gens de votre famille, des gens qui travaillent avec vous, c'est terrible de penser à ça, mais si vous avez des informations, par exemple, voilà, tout à fait... Si vous avez des informations sensibles, ça peut être quelque chose qui est important pour vous. Donc, on recommande souvent de n'utiliser d'utiliser des réponses à ces questions de sécurité qui n'ont rien à voir avec la question. Et là encore, on peut imaginer des phrases imaginaires ou des choses de ce type-là pour se protéger. Je voulais juste faire une petite aparté là-dessus. Alors, eh bien écoute, maintenant je vais te passer le micro principal de l'émission pour parler un petit peu de chiffrement de mail et comment fonctionne le PGP, quel est le principe de ces choses-là, ça devient, on monte un petit peu dans la complexité. Est-ce qu'on parle de VPN ou de chiffrement en premier? C'est toi qui décides.
Comme tu veux. On peut parler de VPN parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec Adopi, le terme de VPN a été beaucoup démocratisé, tout le monde sait plus ou moins c'est quoi un VPN pour par exemple se connecter à Netflix ou comment dire se masquer d'Adopi. Donc ce qu'on peut essayer de faire c'est de comment dire de démystifier ce qu'on entend par VPN, par le côté magique de j'ai un VPN, c'est bon, je suis protégé. Alors je sais pas si toi tu veux te lancer dans une définition de ce qu'est un VPN ou pas.
Bon, un petit truc rapide, oui. En fait, un VPN, ça veut dire Virtual Private Network, ce qui veut dire en fait réseau virtuel privé. Ce que ça va créer, c'est une série d'ordinateurs qui va chiffrer entièrement votre trafic, vos requêtes sur le web ou ailleurs, et qui vont les faire passer par le réseau de manière chiffrée, de manière totalement a priori pas anonyme, mais en tout cas difficilement identifiable par votre fournisseur d'accès ou par les services que vous utilisez, et il va ensuite le faire ressortir ce trafic et vos requêtes à un autre endroit de la planète. Et là, il va redevenir, entre guillemets, lisible par les destinataires. Donc, ce pourquoi c'est souvent utilisé, ça va être le fait de simuler une localisation différente. Tu parlais de Netflix à l'instant. Il y a des gens, avant que Netflix n'arrive en France, qui réussissaient à se créer des comptes Netflix aux États-Unis en utilisant un VPN qui allait faire ressortir le trafic par leur serveur aux États-Unis. Donc Netflix pouvait penser que l'utilisateur était aux États-Unis alors qu'il était en France. Bon, ça c'est le comment dire, l'utilisation un petit peu grand public classique à laquelle on va penser, mais il faut savoir que les VPN peuvent être extrêmement utiles pour des utilisations professionnelles ou pour des utilisations de sécurité. Il y a beaucoup de sociétés qui utilisent des VPN pour créer un réseau privé sur l'internet public, donc un tunnel entièrement sécurisé qui va connecter au réseau de l'entreprise, par exemple, et qui va protéger le trafic privé de l'employé de manière à ce qu'il puisse utiliser les services de l'entreprise comme s'il était sur site sans avoir besoin d'être effectivement sur site. Donc ça, c'est le principe, en gros, du VPN.
Ouais, tout à fait. Donc le VPN est utilisé dans le cadre de ce qu'on appelle le télétravail. C'est je suis chez moi, donc sur ma terrasse, et je veux, comme dire, travailler comme si j'étais au bureau. C'est je vais lancer donc le petit logiciel qui est le VPN, donc sur mon ordinateur. Je vais avoir en fait un code. Là, ça rejoint le côté double authentification. C'est je peux avoir un code à usage unique qui est fourni via une application sur mon téléphone. Je vais taper mon mot de passe. Et donc là, par exemple, moi, je sais que le VPN de mon entreprise nécessite une double authentification. Il y a mon mot de passe de session Windows habituel. Il y a un code à usage unique qui est fourni par une application. Donc je mets ces deux codes-là dans le logiciel VPN. Et après, effectivement, donc il y a un tuyau chiffré qui se crée entre mon ordinateur et un ordinateur de l'entreprise, donc qui est ce qu'on appelle le serveur VPN. Et après, je peux travailler comme si j'étais sur l'intranet de mon entreprise. Je peux regarder les mails dans Outlook, je peux consulter les documents. C'est, il y a vraiment, en fait, c'est comme si il y avait un câble réseau qui partait de mon bureau à l'entreprise jusqu'à mon ordinateur chez moi. Et sauf que ça, c'est un câble réseau virtuel, chiffré, et donc c'est ce qu'on appelle un VPN. Donc ça, c'est pour le côté intranet. Pour le côté, après, on parlait de « je ressors quelque part sur Internet », c'est on a toujours le même serveur VPN, donc qui est un ordinateur sur Internet. Je lance le logiciel sur mon ordinateur à moi. Il y a un tuyau chiffré qui se fait entre mon ordinateur et le serveur en question. Et tout ce que je fais pour aller sur... Donc quand je veux lancer, je lance par exemple Firefox, je veux aller sur n'importe quelle page sur Internet... La demande va passer par le tuyau et ressortir par le serveur. Si je vais par exemple sur google.fr, Google lui va voir qu'il y a un ordinateur qui est par exemple en Suède qui lui demande d'accéder à la page google.fr. Donc l'ordinateur de Google renvoie la page google.fr au serveur VPN. Le serveur VPN lui voit, sait que quand on a demandé google.fr, c'est mon ordinateur à moi qui a demandé cette page, donc il va la renvoyer vers moi via le tunnel chiffré.
Donc c'est une sorte de
c'est un intermédiaire en fait.
Ouais, c'est un forwarding entre moi. Un peu comme la poste. Si vous déménagez, vous allez donner une adresse de transfert à la poste et toutes les lettres qui vont arriver à votre ancienne adresse vont être prises en charge par les services postaux et vont vous être livrées à votre nouvelle adresse. Mais la personne qui a envoyé votre lettre à votre ancienne adresse n'en saura rien finalement.
Tout à fait.
Il communique avec votre ancienne adresse.
Ouais, la fameuse adresse, là, c'est ce qu'on appelle donc l'adresse IP. C'est le service, donc ou le site internet ou le service ou Netflix ou autre qui voit la demande voit l'adresse IP donc du serveur VPN. Donc par exemple, si on sort ce qu'on appelle donc le vocabulaire, c'est on dit on sort. Donc quand on a le serveur donc notre ordinateur est connecté à un serveur VPN qui est par exemple aux États-Unis. L'ordinateur aux États-Unis, lui, va faire la demande à Netflix, pour reprendre cet exemple-là que beaucoup d'auditeurs du Rendez-vous Tech doivent connaître. Et comme c'est une adresse IP américaine, Netflix dit il n'y a pas de souci, je te transmets les informations que tu veux. Et le serveur VPN, lui, sait que quand on a demandé à se connecter à Netflix, ça repart vers la France. Ouais. Et donc il transfère vers la France dans un tunnel chiffré.
C'est peut-être le type de chiffrement qui est le moins utile entre guillemets pour des utilisations importantes pour les utilisateurs finaux. Généralement, je pense que, à moins qu'il y ait des exemples auxquels je ne pense pas là, généralement les utilisateurs qui utilisent des VPN pour des raisons professionnelles auront ces systèmes mis en place par leur service informatique et les utilisateurs finaux, les consommateurs qui vont utiliser ces VPN, ça va être plus pour des questions de surfer en sécurité, enfin des questions de on dit en anglais convenience, de pratique. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que les services que vous utilisez puissent avoir votre localisation ou avoir certaines infos couplées à d'autres outils. Ça peut devenir très efficace pour ne pas donner vos informations aux services que vous utilisez.
Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple que quand moi je suis chez Free, tout ce que je fais sur mon ordinateur depuis chez moi, Free le sait. C'est-à-dire qu'il va, il sait tous les sites que je vais voir, à quelle heure je vais les voir, etc. Et par exemple, imaginons, bon, pour prendre un exemple, si je veux voir, je sais pas moi, YouPorn, j'ai pas envie que Free le sache, je vais utiliser un VPN, ce qui va permettre en fait de créer un tunnel chiffré entre donc mon ordinateur et le serveur VPN. Et Free, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il voit juste un tuyau opaque où il y a des choses qui passent, il ne peut pas savoir ce qui passe. Par contre, le serveur VPN, lui, sait tout ce qui est fait. Ça veut
Oui,
dire qu'il
donc
va pouvoir.
il faut avoir confiance en le serveur qu'on utilise, le service de VPN qu'on utilise. D'ailleurs, il y a eu un scandale il y a quelques semaines avec un serveur, enfin un service gratuit qui s'appelle Ola, que j'avais testé et qui fonctionnait très bien d'ailleurs, qui était un service qui fonctionnait avec des extensions pour les navigateurs web et qui visiblement vendait le trafic de ses utilisateurs pour à des d'autres utilisateurs qui pourraient avoir des intentions pas forcément très honnêtes. Et donc c'est bon, forcément c'était un service gratuit, il fallait bien qu'il fasse de l'argent à un moment, donc on aurait dû s'en douter, mais ça a fait un petit peu de bruit et généralement les experts maintenant ne recommandent plus trop l'utilisation de Ola, n'est-ce pas?
Alors l'intérêt par exemple d'un VPN, ça peut être comme dire je suis au Wi-Fi du McDo du coin, j'ai pas envie que comme dire y ait comme dire quelqu'un qui regarde ce que je fais sur mon ordinateur parce que bah comme dire quand on est sur un Wi-Fi public, toutes les autres personnes sont sur le même Wi-Fi. Donc c'est comme si on était tous reliés ensemble sur le même réseau. Donc des gens qui ont les connaissances suffisantes et nécessaires peuvent voir un petit peu tiens quel site il va regarder, etc. Et donc lui, quand si j'utilise un VPN, je vais avoir un tuyau chiffré entre mon ordinateur et donc le serveur VPN. Donc quelqu'un qui est sur le même Wi-Fi que moi, lui verra juste un tuyau chiffré. Il verra juste un tuyau, mais c'est pas ce qui passe dans le tuyau.
Et j'irais même plus loin, ces Wi-Fi publics peuvent être très dangereux. Il faut faire attention à ne se connecter quand on est sur ces Wi-Fi publics, à essayer de ne se connecter à des services importants qu'en HTTPS. Alors, ceux qui connaissent ce détail sont bien au courant. Quand vous allez sur une adresse email, sur une adresse sur un site web, la connexion peut se faire soit en HTTP, qui est le protocole classique où toutes les informations partent en clair, ou en HTTPS, où là on a des informations qui sont chiffrées. Vous avez généralement un petit cadenas qui s'affiche dans la barre d'adresse de
Tout à
votre
fait.
navigateur, qui va indiquer que ce sont des données chiffrées. Alors, bien sûr, aujourd'hui, Google et les autres services qui ont besoin de sécurité utilisent du HTTPS, donc c'est suffisamment sécurisé. Mais c'est assez récent, ça. Ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans qu'il y a eu, suite à ces hacks un petit peu visibles, que les services informatiques ont commencé à généraliser l'utilisation du HTTPS. Et donc, ça, c'est à peu près sécurisé, mais il faut quand même faire attention quand vous êtes sur un Wi-Fi public, si vous n'utilisez pas de VPN, peut-être jeter un coup d'œil à la barre d'adresse quand vous allez vous loguer sur un service que vous utilisez régulièrement. Si vous voyez que ça n'est pas du HTTPS, eh ben peut-être attendez de rentrer à la maison avant de vous loguer dessus, parce que le trafic est en clair. Ça veut dire que si vous tapez votre mot de passe, le mot de passe va voyager sans chiffrement sur le réseau Wi-Fi et puis sur Internet. Et donc, n'importe qui est connecté à ce même réseau Wi-Fi, qui est en train d'espionner le trafic qui s'y passe, et ça existe. On pense surtout aux aéroports, par exemple, où il y a réseau Wi-Fi gratuit dont vous n'êtes pas sûr que ça soit vraiment le bon réseau de l'aéroport, et vous dites, bon, allez, je me connecte quand même. Ça peut être quelqu'un qui a créé un réseau local, qui traîne là et qui est en train de s'amuser à récupérer tout le trafic. Donc, si à ce moment, vous vous connectez à un service en HTTP, et pas HTTPS, eh ben il peut récupérer votre info. Oh, ça peut sembler un peu paranoïaque comme vision des choses, mais c'est juste des bonnes pratiques, une hygiène informatique, des trucs simplement, on jette un coup d'œil et puis on voit, c'est pas HTTPS, donc je me connecte pas si je suis sur Wi-Fi public.
Pour le Wi-Fi, c'est très simple. Moi, je vais par exemple dans un McDonald's et je crée depuis mon ordinateur un Wi-Fi qui s'appellera Wi-Fi McDo. Comme dire, le signal est beaucoup plus puissant parce que je suis à côté des personnes, bah les gens vont se connecter dessus. Parce qu'ils vont voir Wi-Fi McDo, je suis McDo, alors que le vrai Wi-Fi du McDonald's s'appelle peut-être Wi-Fi McDonald's.
C'est
Donc
ça.
On voit Wi-Fi McDo. Le signal est plutôt bon parce que, comme dire, bah, l'ordinateur, on ne sait pas, il est juste à côté de nous. Et donc, on se connecte dessus en toute confiance. Sauf que la personne, en fait, est en train de regarder tout ce qu'on fait sur Internet et de potentiellement essayer de pirater nos données. Pour le HTTPS, il y a une extension qui s'appelle HTTPS Everywhere, donc comme partout en anglais, qui est une petite extension qu'on peut ajouter dans son navigateur, donc Firefox ou Chrome, qui permet que dès qu'on est sur un site internet qui propose une connexion HTTPS, on va basculer automatiquement sur ce mode-là. Ça veut dire qu'on n'a pas à se poser la question de est-ce que j'ai bien le S ou pas. Ou ça va le mettre automatiquement si le service le propose.
Mais est-ce que c'est pas le cas aujourd'hui déjà, les services
Alors,
qui le proposent
Google le
par
propose,
défaut?
Oui, Google le propose par défaut. Mais il se peut qu'il y ait certains services qui le proposent pas par défaut. Pourquoi? Parce que comme il y a du chiffrement derrière, ça demande un petit peu plus de temps de calcul pour le serveur. Et donc si plus il y a d'utilisateurs qui utilisent les connexions chiffrées, plus ça demande de calcul, donc plus de courant, donc ça coûte un petit peu plus cher. Bon, c'est donc pendant quelques temps, c'était pas quelque chose d'activé par défaut. Maintenant, par exemple, si on va sur Google, automatiquement, on est avec le mode cadenas, donc avec le S qui s'affiche. Mais au cas où il y aurait certains sites, alors j'en ai pas en tête comme ça, qui ne proposeraient pas, le chiffrement par défaut, mais qui le proposent quand même, on va pouvoir en fait basculer sur ce mode-là. Alors, ce qui est important, c'est pas, ça va pas mettre le cadenas partout. Ça ne le met que si le site le propose.
Ouais, donc
c'est ça qui est important, la nuance.
C'est important à retenir, ouais.
Voilà, c'est ça. Mais c'est une extension qui est bien pratique, on peut installer, et comme ça, bon, bah, c'est au cas où on est un peu fatigué, on va un peu vite, au moins là, si le service le propose, on aura un mode connexion avec le cadenas. Donc, s'il faut retenir, donc, du VPN, c'est que ça permet, donc, de masquer ce qu'on fait, à un site internet par exemple, mais le serveur VPN sait parfaitement ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on retrouve par exemple des pirates potentiels. C'est ce qu'on dit, oui, ils ont utilisé un VPN, sauf que comme le serveur VPN, lui, a noté, voilà, c'était telle adresse IP qui a fait telle action à tel moment, quand les services de police peuvent retrouver après, la personne auteur du délit. Un autre usage du VPN, moi je sais que c'est la Freebox V6, donc la Freebox Revolution, propose un serveur VPN. Donc il y a deux possibilités, soit en fait on se connecte sur notre Freebox et après c'est comme si on était sur le réseau local, ce qui est bien pratique. Par exemple, si tiens, je veux montrer des photos de vacances à des amis, je me connecte via mon ordinateur.
Tu veux dire quand on est loin, quand on est,
ouais, quand on est
chez
loin,
des amis ou
on est
en
loin,
voyage,
on est chez
ou...
les... voilà, on est en voyage, ouais. Ou autre, on dit tiens, j'aimerais bien montrer des photos et puis ah, c'est sur mon ordinateur qui est à la maison. Eh ben, on peut se connecter donc sur sa Freebox et c'est comme si on était sur le Wi-Fi à la maison. Et donc on peut regarder le contenu du disque dur de la Freebox ou d'un autre ordinateur qui est sur le réseau. Ou il y a une autre possibilité, donc c'est de se connecter à la Freebox et on ressort via la Freebox. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est que par exemple en Allemagne, mais je veux me connecter à un site français qui n'accepte que des IP françaises. C'est je veux me connecter depuis mon ordinateur sur la Freebox qui est chez moi et donc ça va faire un tuyau chiffré entre mon ordinateur et ma Freebox et après je ressors de la Freebox sur le réseau internet Free. Et donc je pourrais aller consulter par exemple le site de France 5 qui n'est accessible que depuis la France.
Et ça sert évidemment aussi, comme on le disait, pour toutes les questions de Wi-Fi public, McDo, aéroport,
voilà.
Tout ça.
Et
ça peut être utile là aussi.
Oui, c'est pratique parce que j'ai pas besoin d'avoir un abonnement à un service VPN quelconque ou autre quand on a une Freebox V6, donc la Révolution. Et ça permet, donc on a les avantages du VPN sans avoir à dire ah ouais, il faut que je prenne un compte. Alors est-ce que ce service-là, il est fiable ou pas? Là, la question se pose pas parce que on sort depuis la Freebox. Donc c'est comme si on surfait depuis chez nous.
Alors justement, est-ce qu'il y a, pour les gens qui ne sont pas chez Free, est-ce qu'il y a un service que tu recommanderais plus qu'un autre, ou un ou deux? Est-ce qu'il y en a qui sont fiables pour le moment en tout cas?
Alors, il y a le site qui s'appelle RiseUp, RiseUp.net, qui est un site d'activistes américains qui propose une liste de séries de VPN que eux considèrent de confiance. Donc dans la communauté, on va dire hacker, etc., RiseUp est considéré comme de confiance par différents activistes. Et donc si eux proposent donc sur leur wiki, ils ont un wiki, une liste de services de VPN, c'est que ce sont des services de VPN de confiance.
Et entre parenthèses, il est disponible en français hein, aussi.
Ah oui, d'accord. Ouais, c'est le wiki a dû être francisé depuis. Ouais.
Ouais.
Et donc vous retenez riseup, riseup.net, et vous avez un certain nombre de une liste de services VPN. Il y a aussi un certain nombre de conseils d'hygiène numérique, donc avec différents niveaux de, comment dire, de sécurité. Parce que ce qui est important là, ce qu'on a vu, c'est la sécurité, c'est compliqué. L'image que j'utilise souvent moi, c'est je mets une porte blindée à ma maison. Je mets une porte blindée avec quatre serrures. Donc j'ai un peu plus de sécurité. Mais tous les matins, tous les soirs, je vais devoir ouvrir et fermer quatre serrures. Si j'ai un train à prendre, j'ai un TGV à prendre, mais je suis pressé, je vais devoir quand même fermer quatre serrures. Et je vais rater mon train. Donc là, on voit bien que j'ai un peu plus de sécurité avec une porte blindée, mais le compromis, c'est bah j'ai quatre serrures à ouvrir, je suis fatigué, je rentre d'une fête un peu arrosée, et ben j'ai quand même quatre serrures à ouvrir avec quatre clés différentes, et je vais mettre 20 minutes pour rentrer chez moi parce que je me trompe de clé, etc. Mais
On
j'ai un
a
peu plus.
effectivement cette image récurrente et ce combat permanent, ce tiraillement entre sécurité et pratique. Et quand on tire plus vers l'un, on s'éloigne forcément un peu plus de
Voilà,
l'autre.
c'est. Oui, il n'y a pas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de sécurité pratique. C'est soit l'un, soit l'autre. Et l'exemple que je continue donc à utiliser aussi, c'est, mais si on a mis une porte blindée à sa maison, c'est très bien, mais si on oublie de fermer les fenêtres, on perd tout l'intérêt de la porte blindée. Et donc là, on commence à rentrer dans un cercle un peu vicieux où on se dit, oui, alors, donc bon, c'est bon, j'ai une porte blindée, c'est contraignant, mais j'ai une porte blindée. Après, ah oui, les fenêtres. Alors qu'est-ce que je dois faire? Oui, alors je vais mettre des barreaux aux fenêtres. Ah oui, bah le cambrioleur, il fait quoi? Il passe par la porte de garage qui est une porte en bois. Et donc là, on rentre dans un cercle qui est compliqué, c'est que on va vivre après dans un coffre-fort. Et donc c'est compliqué. Donc c'est à chacun de déterminer, voilà, jusqu'où je suis prêt à aller. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce que je suis prêt à apprendre? Et quels sont les compromis que je peux faire? Comme on disait tout à l'heure, bah, la phrase de passe est un bon compromis. Pourquoi? Parce que c'est pas un mot de passe qui est compliqué à retenir. C'est plusieurs mots qui n'ont aucun sens les uns à la suite des autres. Mais ça entraîne quand même de la complexité. Donc la double authentification, oui, bah, c'est embêtant. À chaque fois, je vais devoir, comment dire, taper un code sur mon téléphone ou le recevoir par SMS. Donc j'ai un code en plus à taper. Mais ça apporte plus de sécurité. Donc après, à chacun de déterminer est-ce que ça m'embête que dès que je me connecte, je vais, comment dire, avoir à taper un mot de passe ou pas. En plus, est-ce que c'est gênant, mais est-ce que ça m'apporte plus de confort? Mais comme disait Patrick, il y a le côté, bah, l'ordinateur qu'on utilise chez soi, si on se dit, bon, bah, je ne fais pas n'importe quoi dessus, j'installe pas n'importe quel logiciel, je pense que je n'ai pas de virus parce que l'antivirus est à jour, et puis j'installe pas des logiciels tous les jours qui viennent de je ne sais où, cet ordinateur est relativement sécurisé, bah là je peux dire à Google par exemple, oui, cet ordinateur je le connais, j'ai juste à taper mon mot de passe, j'ai pas besoin de mettre la double authentification. Par contre, si on va au cybercafé, là, double authentification obligatoire.
Bon, bah c'est presque une conclusion qu'on était en train de faire là, mais on a quand même un dernier détail. J'espère que les choses ont été claires sur le VPN et sur l'intérêt de l'utilisation du VPN. On a un dernier morceau qui est quand même un gros morceau et peut-être le plus compliqué, mais c'est un morceau important aussi, c'est celui des chiffrements de mail et la manière dont on peut protéger et sécuriser ses communications par courrier. Et cet acronyme que vous entendrez, je pense, régulièrement, de PGP, donc Pretty Good Privacy, avec la francisation de l'accent anglais, dont tu peux peut-être nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne de cet chiffrement de mail, de ce chiffrement de mail?
Oui, bien sûr. Alors, par défaut, quand on envoie un mail, il faut comprendre que c'est comme si on envoyait une carte postale. Ça veut dire quoi? C'est que donc on a la partie où on écrit gros bisous de la plage où je passe d'un super été. Donc ça, c'est la partie contenu du mail. Et à côté, on a comment dire l'expéditeur et le destinataire. Et donc la carte postale circule. Mon facteur peut très bien lire comment dire la carte postale. Et voir qu'il y a une fille à moitié nue, par exemple, souvent ça c'est les cartes postales d'été qu'on achète à la plage, qu'on envoie à tonton Robert pour le faire rigoler. Bon, là on voit tout de suite ça fait rigoler parce que bon c'est une image un peu gauloise, etc. Mais imaginons que c'est autre chose. Imaginons que maintenant c'est votre médecin qui vous envoie un compte rendu d'analyse médicale et qu'il l'envoie sur une carte postale. Là tout de suite ça choque. il faut réaliser que les mails, c'est ça, c'est on envoie des cartes postales. Donc n'importe qui, alors n'importe qui étant à définir, ça peut être comment dire quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, sur vous envoyez un mail depuis votre votre entreprise, ça peut être l'administrateur informatique, lui, comme il a accès à toutes les boîtes mail des employés, il va pouvoir le lire. Ça peut être comment dire on est Wi-Fi du McDo, on relève ces mails, le mail circule, comme c'est une carte postale, quelqu'un qui récupère le mail va pouvoir le lire. Donc c'est toujours pareil, c'est qu'un mail égale une carte postale. Donc une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir passer au chiffrement des mails. Le chiffrement des mails, c'est quoi ? C'est on va mettre une enveloppe autour de la carte postale. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise le chiffrement des mails, on a mis des enveloppes. L'enveloppe apporte quoi ? On sait qui écrit à qui, donc on a le destinataire et l'expéditeur, mais on ne connaît pas le contenu du mail. Donc c'est ça qui est important à retenir, c'est que quand on chiffre ces mails, on sait qui écrit à qui, le sujet du mail, éventuellement s'il y a des pièces jointes, alors après, mais comme dire, on ne connaît pas le corps du mail. Alors ce qui est important, c'est que ça ne protège pas tout, parce qu'on entend souvent parler de métadonnées. Souvent, quand on entend parler de, donc surtout en ce moment avec les affaires d'espionnage, NSA, etc., ce qui est important, c'est qui communique avec qui. C'est pas forcément le contenu, c'est qui communique avec qui. Donc, pour le commun des mortels, bah, ça peut être utile de se dire, voilà, comment dire, je parle avec quelqu'un, bon, j'ai pas envie que le contenu se sache. Parce que, bah, je sais pas, moi, c'est...
C'est-à-dire que c'est pas entièrement anonyme.
Voilà, c'est pas anonyme. C'est juste, je mets une enveloppe. C'est le corps du message.
Ouais, le contenu du message
est protégé, mais il n'y a pas d'anonymat. C'est ça qui est important. À retenir, avec le chiffrement des mails, c'est juste, c'est je mets une enveloppe, donc je protège le contenu de mon message. On ne peut pas lire, mais on sait qui écrit à qui. Ce n'est pas de la messagerie anonyme. C'est j'utilise mon mail de tous les jours. J'écris à mes amis ou à différentes personnes comme je le fais habituellement. Sauf que, comment dire, je vais avoir un petit peu de... Je vais devoir... Donc on va peut-être expliquer le principe. Alors, comment ça se passe ? Le chiffrement des mails, c'est quoi ? Il y a deux notions. Il y a clé publique, clé privée. Donc là, déjà, on a tout un vocabulaire qui arrive. Comme on disait tout à l'heure, plus de sécurité apporte plus de complexité. La clé publique, il faut le comprendre comme c'est un cadenas. C'est un cadenas que je distribue un petit peu à tout le monde sur Internet. Donc c'est un petit fichier informatique qu'on récupère via un logiciel dédié. Logiciel dédié, donc ça va être c'est un plugin. Alors, je vais repartir. Donc voilà, ouais. Donc je distribue ce cadenas, pardon. Les gens qui veulent m'écrire, en fait, c'est comme si je distribuais une enveloppe. Ils vont prendre ce cadenas, ils vont donc écrire le message et ils vont le cadenasser ou ils vont mettre le message dans l'enveloppe. Et à partir du moment où le message est dans une enveloppe, où le message est cadenassé, donc avec la clé publique, le message ne peut plus être lu que par la personne qui a la clé du cadenas. La clé du cadenas, c'est la fameuse clé privée. C'est-à-dire que quand le message circule, quelle que soit la personne qui va l'intercepter, il va devoir casser le cadenas s'il veut pouvoir lire le message. Et plus le cadenas est dur, plus ça sera compliqué de casser le cadenas.
Une meilleure nomenclature pour comprendre vraiment ce principe, c'est que la clé publique, c'est le cadenas, et
tout
la clé privée, c'est la clé. Donc
voilà,
c'est un petit peu trompeur d'appeler les deux clés. Même si c'est logique hein, techniquement, mais ça amène une certaine confusion chez les utilisateurs en général, je pense, parce que les deux s'appellent clés. Il y a clé privée et clé publique.
Oui,
alors qu'en fait, ton exemple est parfait. C'est que, la clé publique, c'est le cadenas.
Oui, c'est que comme c'est basé sur des fonctions mathématiques, avec une notion de clé, en fait, c'est pour ça que le terme sont restés. Et là, c'est qu'on a un chiffrement, ce qu'on appelle asymétrique. C'est qu'on peut le faire dans un sens, mais on peut pas le faire dans l'autre. Un exemple de chiffrement symétrique tout bête, c'est le chiffrement de César. C'est je décale les lettres d'un certain nombre de lettres. Par exemple, c'est le A devient E, le B devient F. Et si je sais que j'ai décalé de 5, il suffit que je décale de 5 dans l'autre sens pour revenir. Et après, je sais que si je vois un F, c'était un A. Si je vois un F, c'était un B. Si je vois un E, c'était un A. Et donc là, je peux lire le message. Ça, c'est du chiffrement symétrique. Le chiffrement symétrique, c'est que je décale les lettres dans un sens. Mais ce n'est pas en décalant dans l'autre sens que je vais retrouver le message d'origine. Et donc, ce que fait le cadenas, c'est je décale les lettres d'un certain nombre, dans un sens. Par contre, dans l'autre sens, c'est une autre valeur que je vais devoir utiliser pour retrouver le message d'origine.
Donc c'est c'est pas logique quand on l'applique à l'alphabet comme ça. Mais effectivement
C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un sens ça marche, mais ça marche pas dans l'autre. C'est pour ça qu'il y a deux fichiers différents. Et il y a un fichier qui est très important, c'est la clé privée, parce que c'est elle qui permet de rétablir le message le message chiffré vers un message, ce qu'on appelle en clair, qui est donc lisible humainement.
Mais alors, comment est-ce que ça fonctionne en fait pour, je sais pas, disons que je veux utiliser avec Gmail un système de chiffrement donc de PGP.
Alors à l'heure actuelle, moi ce que j'utilise et ce qui est le plus simple, c'est d'installer donc Thunderbird, qui est l'équivalent d'Outlook fait par Mozilla, ceux qui font Firefox, mais il utilise également un plugin PGP pour Outlook, et donc c'est le plugin qui va tout gérer. Donc le plugin, il fait quoi ? C'est, je vais écrire par exemple à Patrick Béja, donc je tape l'adresse mail, je tape le sujet, je tape mon message, et donc dans Thunderbird, j'ai le plugin qui lui s'appelle Enigmail, il va regarder, est-ce que je connais la clé publique de Patrick ? Donc est-ce que j'ai déjà son cadenas ? Non, il va aller le chercher sur Internet et regarder, voilà, Patrick a déclaré que son cadenas, c'était ce fichier-là, il va le récupérer.
Mais donc, il y a des services d'archives de clés publiques sur Internet qui sont utilisés par... c'est standardisé, quoi.
Oui, il y a des serveurs de clés, donc c'est des serveurs Internet qui stockent toutes les clés des différentes personnes. Toutes les clés donc publiques, tous les différents cadenas. Donc... mon courrieleur, donc mon Thunderbird va regarder si j'ai déjà le cadenas. Si oui, il va cadenasser mon message et l'envoyer comme un mail normal.
Sinon, donc il va le cadenasser avec mon cadenas à moi que tu as obtenu par ce service, oui.
Et le mail va partir. Et donc toi, quand tu vas recevoir le mail, si tu le regardes depuis Gmail, tu verras un message cryptique, c'est-à-dire un message qui ressemble à une série de lettres et de codes qui veut rien dire du tout. Donc soit tu as un plugin pour le navigateur, mais moi personnellement, je connais pas trop, donc je pourrais pas m'avancer là-dessus.
Ouais, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Mailvelope, qui est pas mal, mais vas-y, continue.
Ou, c'est ce que je fais moi, j'utilise donc Thunderbird, donc tu vas utiliser par exemple Thunderbird, tu vas récupérer ton mail sur ton ordinateur, et là, comme tu as le plugin Enigmail, le logiciel va dire, ah, le mail est chiffré, tapez votre phrase de passe pour le déchiffrer. Et ce que fait la phrase de passe, en fait, c'est que là, on voit que là, tout de suite, même moi, j'ai du mal à expliquer, donc c'est pas simple.
Ouais, c'est vraiment. Ouais.
Et donc, en fait, la phrase de passe permet de déverrouiller. En fait, c'est qu'on a un coffre-fort sur l'ordinateur dans lequel est stockée la clé privée. Donc, on ouvre donc le coffre-fort avec sa phrase de passe.
La phrase de passe n'est même pas la clé privée. C'est le truc qui permet d'accéder.
C'est ce qui permet d'ouvrir le coffre-fort. On sort la clé privée. Ça déchiffre le message. Donc ça fait l'opération mathématique inverse. On peut lire le message et dire et voilà et comment dire et après on referme le coffre-fort.
Mais j'imagine que donc c'est ce service qui marche comme ça avec la clé privée qui est sous coffre-fort. On peut aussi avoir des services qui ne nécessitent pas la clé privée à chaque fois qu'on va qui ne nécessitent pas la phrase de passe à chaque fois qu'on va vouloir lire un mail. C'est une fonction de sécurité supplémentaire.
Oui, après, il est possible de garder temporairement en mémoire, la clé privée. C'est une option qui est activable. Donc là, ça amène la notion de est-ce que je vais taper à chaque fois ma phrase de passe pour déverrouiller à chaque fois, ou est-ce que je laisse un certain temps en mémoire ma clé privée, avec les risques que ça peut comporter, parce que si un virus sur l'ordinateur, comme c'est dans la mémoire, il va pouvoir le récupérer. Donc là, c'est toujours pareil, c'est jusqu'où je veux aller en sécurité. C'est un petit peu compliqué. Après, là, on a vu que si je t'écris à toi, il faut que toi, tu aies déjà un cadenas. Si tu n'as pas le cadenas, je ne peux pas t'écrire de manière cryptée, chiffrée.
Ouais.
Et inversement, si tu veux me répondre, il faut que tu disposes toi-même de mon cadenas. Donc là, on voit bien que pour que deux personnes communiquent de façon chiffrée, il faut que les deux aient mis en place le système de clé cadenas.
Et est-ce que les fournisseurs de mail en général ont, parce que tu dis effectivement, il faudrait que chacun ait la clé privée, machin. Il serait possible de généraliser l'utilisation de ce type de chiffrement si les fournisseurs de services de courrier adoptaient ces pratiques et ces standards. Il serait très simple pour Google, Apple et les autres de mettre en place ce type de standard, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. Oui, ça, on peut imaginer, très bien imaginer que, comment dire, ça soit Gmail, Google ou Apple ou autre qui gère le système de clé cadenas. C'est-à-dire que quand je vais écrire à quelqu'un, il vérifie s'il a le cadenas ou pas. Et que quand je vais sur mon Gmail, donc je tape donc mon login normal, et c'est que ça soit fait donc en, comment dire, dans les coulisses, le fait que ah bah le mail il y avait un cadenas dessus, je l'ouvre avec la clé, etc. Sauf que ça veut dire que Google détient la clé. Et là, ça rejoint le côté, bon, c'est peut-être un côté un petit peu parano, ou ça dépend de, comment dire, c'est si Google a la clé, comment dire, il peut lire tous mes mails. Et si on utilise du chiffrement de mail à l'heure actuelle, si on a envie qu'il n'y ait que nous qui soyons à même de lire le mail. Donc après, ouais, c'est tout à... Donc Google pourrait le proposer, il y aurait, comment dire, après, ça sera à chacun de déterminer, voilà, est-ce que, comment dire, je suis d'accord avec le fait que l'entreprise qui me fournit le mail est, soit en capacité elle-même de lire le mail ou pas.
C'est un petit peu comme l'idée d'avoir un coffre-fort à la banque et de se dire que bah, la banque a la clé du coffre-fort.
Voilà, tout à fait.
Quoi.
C'est ça. On voit souvent, comme dire, comme
il
dire,
il y a les films où les gens
oui,
mettent leur passeport d'espion et leurs bijoux à la banque et il faut que on utilise la clé de la banque et la clé qu'on a nous-mêmes aussi, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Et donc, et comme je l'ai dit, moi, j'ai, comment dire, j'utilise Thunderbird. Donc, ça veut dire la contrainte que ça apporte, c'est je suis obligé d'utiliser un ordinateur portable ou fixe sur lequel j'ai la clé privée, donc pour pouvoir lire mes mails. C'est-à-dire que je peux pas lire mes mails chiffrés depuis mon téléphone.
Et qu'est-ce qui se passe si, pardon, je te laisse finir.
Ouais. Il est possible de le faire, mais ça veut dire quoi? Qu'on va mettre la clé privée sur le téléphone, et si on perd son téléphone, là, on perd la clé privée. Donc, la clé est considérée comme compromise. Et là, ça amène tout un tas de notions de, voilà, comment dire, ma clé est quelque part dans la nature, donc elle est compromise, ça veut dire que quelqu'un qui s'y connaît, qui a trouvé ma clé, s'il récupère mes mails chiffrés, il va pouvoir les lire. Et donc, on monte encore au niveau de, comment dire, en complexité. Après, si je veux écrire à Patrick avec un cadenas, c'est très bien, mais il faut que je sois sûr que le cadenas est bien celui de Patrick. Parce que n'importe qui peut dire demain, ah bah je suis Patrick Béja, j'ai un mail chez Hotmail, écrivez-moi de façon sécurisée, j'ai fait un rendez-vous tech spécial vie privée, spécial chiffrement, écrivez-moi sur mon nouveau compte Hotmail parce que c'est mieux, et avec ce cadenas-là. Les gens dont moi on va lui écrire avec des mails pour lui dire ah très bien ton émission, bon qu'importe le contenu, avec le cadenas, sauf que Patrick n'a pas la clé du cadenas parce que c'est pas le vrai Patrick derrière. Et donc il faut vérifier que le cadenas est bien celui de Patrick.
C'est
donc
bien compliqué tout ça. Bon, donc là en fait c'est en quelque sorte. Oui pardon.
Oui. Et donc comment on vérifie que le cadenas est le bon? Si on va contacter Patrick par exemple par un autre moyen, par Twitter ou autre, lui dire quel est le numéro de série de ton cadenas public, parce qu'en fait il y a une sorte de numéro de série. Et il va dire bah mon numéro de série de mon cadenas c'est celui-là. Et donc on va vérifier que celui qu'on récupère, on va dire tiens Patrick t'es passé chez Hotmail, ah bah non je suis toujours chez Gmail par exemple et mon numéro de série des cadenas c'est celui-là. Et là, on pourra savoir, voilà, si j'écris sur Gmail et que j'écris avec ce cadenas qui a ce numéro de série-là, je communique de façon sécurisée avec Patrick. Par contre,
alors, ouais.
Comme je disais tout à l'heure, on sait que moi, Genma, j'ai écrit à Patrick et le sujet du mail, comment dire, sera visible. Donc Google saura que ne verra pas le contenu, mais il verra, par exemple, je sais pas moi, comment dire, invitation au rendez-vous tech comme participation. Comme sujet de mail, par exemple. Voilà.
Et du coup, j'aurais deux questions. Si
oui,
tu
sûr.
Perds ta clé privée, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu dois la renouveler et donc sur les services d'archives, de bibliothèque de clés privées, donc elle va être modifiée, mais ça sera uniquement pour les nouveaux mails qui te seront envoyés. Tous les anciens resteront avec l'ancienne clé privée et tu pourras peut-être plus les lire parce que tu as perdu ton ancienne clé privée, n'est-ce pas?
Tout à fait. Donc, alors, là, si je perds ma clé privée, par exemple, mon ordinateur tombe, j'ai pas de sauvegarde, l'ordinateur ne marche plus, ma clé est cassée. Donc, tous les anciens mails qui sont encore sur mon webmail ou autre, je ne pourrai plus les lire, parce que je n'ai pas la clé pour ouvrir le cadenas. Et, comment dire, les gens qui vont m'écrire, s'ils écrivent avec mon ancien cadenas, je pourrais pas les lire non plus. Donc, il faut que je prévienne les personnes qui vont susceptibles de m'écrire de manière chiffrée que ce cadenas-là n'est plus valide. Donc, on a ce qu'on appelle un certificat de révocation. Donc, en fait, on envoie un peu, il y a un petit fichier que, au moment où on crée son système de clé cadenas, qu'on doit garder précieusement de façon sauvegardée sur différents ordinateurs. Ça permet de dire voilà j'ai perdu ma clé ou comment dire je veux changer de clé ou autre et on prévient donc les serveurs de clé. Donc on envoie ce fichier là et ça va annuler la clé. Ça veut dire voilà, à partir de telle date, telle heure, ce cadenas là n'est plus valable. Et au cas où, si jamais, on n'a pas fait ce fichier-là ou on l'a perdu ou autre, il y a un système de date d'expiration qu'on peut mettre sur le cadenas. Donc régulièrement, la date, on l'a choisi. Moi, je sais que c'est tous les ans. Je pense à prolonger la date d'expiration du cadenas. On peut le faire même quand c'est expiré. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que si, ça tombe au 1er janvier et puis bah mince, on est le 5 janvier, j'ai oublié de prolonger, je peux toujours. C'est pas une date absolue. C'est que même si la date est dépassée, je peux toujours prolonger. Mais si jamais, il m'arrive quelque chose, par exemple, je sais pas moi, ou j'ai perdu mon ordinateur ou autre, comme la date, le cadenas a une date de validité finale, au bout d'un moment, ça se finira par s'expirer tout seul. C'est-à-dire que les gens vont dire, tiens, le cadenas n'est plus valable, est-ce que tu en as un nouveau ?
Oui, tout à fait, ouais, je comprends. D'accord, donc ça c'est clair, mais par contre, une fois que ton cadenas est expiré, tu peux continuer à lire, toi tu gardes la clé localement, ton ancienne clé, et tu peux continuer à lire tes anciens mails qui t'ont été envoyés avec l'ancien cadenas. C'est juste que, a priori, les gens ne t'enverront plus de mails avec cet ancien cadenas à l'avenir, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, parce que c'est le cadenas qui est périmé, mais un cadenas qui a été mis est toujours valable. Si j'ai toujours la clé, je peux toujours ouvrir.
D'accord.
Si je dis juste, maintenant, si vous voulez m'envoyer, utilisez un nouveau cadenas.
D'accord.
Mais moi, tant que j'ai la clé, je peux ouvrir le cadenas. C'est juste que j'ai mis un cadenas qui est peut-être de meilleure qualité parce que les technologies évoluent.
Alors, l'autre question, c'est tout ça me paraît quand même bien compliqué. Et c'est un petit peu, particulièrement sur cette question de chiffrement de mail, c'est un petit peu, ça me paraît un petit peu... j'ai pas envie de dire extrême, mais c'est quand même des gens qui ont des besoins en sécurité très spécifiques. Donc je te reposerai un petit peu la même question que tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu conseillerais pour les utilisateurs entre guillemets normaux?
Alors,
encore une question compliquée, hein.
Non, je dirais, à chacun de se faire son avis, c'est mieux parce que, moi personnellement, je pense que oui, parce que c'est ce que je fais. Alors pourquoi je le faisais au début? Parce que j'estimais que c'était quelque chose de rigolo, c'était marrant, il y avait un côté intérêt technologique. Après, en fréquentant des gens de la sphère activiste, où là, eux, pour eux, c'est une nécessité. On est amené à utiliser ces techniques-là.
Et plus, parce que sinon, ils t'écrivent pas. Oui, ils lisent pas tes mails s'ils sont pas chiffrés.
Oui, c'est parce que, ce qu'ils appellent
une
certaine cohérence.
Oui.
Ouais, d'hygiène, de cohérence aussi. Et après, ça peut être, on peut imaginer plein de choses. C'est, après, on peut se dire, j'écris en clair, donc on s'aperçoit, du contenu. Par exemple, je leur donne rendez-vous. Tiens, je vais faire une interview pour discuter, etc. Sauf que finalement, j'ai pas pu aller à l'interview. C'est quelqu'un d'autre qui se présente à ma place. Parce que la personne a pu lire, le contenu du message avec l'heure, le lieu du rendez-vous ou autre. Donc ça, on rentre dans des considérations un petit peu, espionnage ou autre. Hein. Bon, c'est le côté activiste. Pour le commun des mortels, l'exemple, ça peut être, on sait que Google ou autre service lise tout le contenu de nos mails. Donc la question que je poserais, c'est mon médecin m'écrit sur mon Gmail et me dit, voici le bilan de vos analyses sanguines, etc. Est-ce que on est d'accord avec ça ou pas? Après, moi j'ai ma propre réponse. À chacun de se faire la sienne. Est-ce qu'on est d'accord que toutes nos données médicales, par exemple, soient connues de Google? Si oui, le chiffrement n'est pas une nécessité. Si on estime que non, il y a peut-être un souci. Donc là, on voit tout de suite, vu que j'utilise le terme de souci, on voit de quel côté moi je penche. Donc, si on estime que c'est un souci, on va peut-être s'intéresser au chiffrement des mails.
Bien sûr.
Voilà.
Oui, donc ça va vraiment dépendre de chacun et de ceux dont ils vont avoir besoin et des nécessités.
Comme on disait tout à l'heure, c'est si on est d'accord avec j'envoie des cartes postales à tout le monde avec quel que soit le contenu du message et la confidentialité, le côté privé du message en question, on continue à utiliser une messagerie normale. Et si on se dit tiens, de temps en temps, je veux peut-être mettre des enveloppes sur mes cartes postales, on va utiliser le chiffrement. les plus activistes vont dire, oui, mais si je commence à mettre des enveloppes sur certains mails et pas d'autres, j'attire l'attention sur les messages qui ont une
Oui,
enveloppe. Parce que
effectivement.
justement, si habituellement j'envoie des cartes postales, et là bizarrement j'en ai certains, ça peut être ma fiche de paye par exemple, si on a un facteur qui est un peu indélicat, on va dire tiens, là il y a une enveloppe, bah, je vais ouvrir l'enveloppe
Ouais.
pour regarder ce qu'il y a dedans, parce que justement c'est important, parce que bon les cartes postales, ouais, c'est marrant, bon il raconte sa vie, c'est pas gênant. Par contre là, il y a une enveloppe, ah, il y a peut-être quelque chose d'important. Donc
D'accord.
on voit que c'est pas simple, et c'est pour ça aussi qu'on termine sur le chiffrement des mails, parce que ça apporte plus de questions que de réponses. C'est le côté, comment dire, bah là on arrive dans un monde où, alors j'ai mis des barreaux aux fenêtres, j'ai mis comment dire, j'ai sécurisé, je me suis fait un mini bunker, etc. Et c'est un peu bon, bah quand je sors de chez moi, je vais regarder à gauche, trois fois à gauche et à droite pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui voit que je suis en train de sortir de chez moi. Bon, c'est
Oui,
on arrive dans des
ça peut. Il y a vraiment une question de chacun doit faire sa propre sauce, sa propre soupe, voir ce dont il a besoin.
Tout
Et
à fait.
effectivement, comme tu le disais très bien, se prendre en compte comment dire, l'aspect pratique de tout ça, parce que si on se construit un bunker énorme et que au final ça nous fait tellement, ça nous emmerde tellement qu'on va finir par ne pas l'utiliser au quotidien et à laisser c'est une seule serrure sur quatre ouverte et c'est la plus facile, enfin fermée, bah finalement ça sert pas à grand-chose. Donc je crois que et on s'approche de la conclusion de l'épisode et de tout ce petit dossier, il est très important de ne pas dire bon, de toute façon la sécurité je m'en fous. On n'est pas obligé. C'est pour ça que parfois je suis un petit peu ça me fait un petit peu tiquer les activistes qui veulent absolument utiliser des VPN et chiffrer tous leurs mails et faire de la double authentification et utiliser des services libres et voilà. Le problème c'est que c'est pas tenable sur le long terme et pour le commun des mortels. C'est quelque chose qui est du domaine de la théorie idéalisée, mais en pratique, malheureusement, si on veut parler aux vrais gens, ça peut pas se mettre en place. Malheureusement, hein, ça serait idéal, mais malheureusement, ça se pratique pas. Donc, je pense que ce type de discours peut amener les utilisateurs à se dire ah bah moi de toute façon je m'en fous, je vais rien faire parce que ça m'emmerde. Et il est très important de justement ne pas avoir cette réaction, de ne pas se dire du coup je vais rien faire, mais au contraire de regarder un petit peu tous les outils qui sont à notre disposition. Et j'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Donc de regarder tous les outils qui sont à notre disposition et de sélectionner ceux dont on estime qu'ils sont un bon compromis pour notre situation, pour répondre à nos besoins, à nos envies et répondre aussi à nos besoins de pratique, tout simplement. Je pense que mon mot de conclusion sera que quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, quels que soient les services que vous utilisez, le strict minimum, c'est la double authentification. Je pense qu'il faut absolument que si vous vous intéressez suffisamment à la tech pour écouter cette émission, il faut que vous investiguiez au moins pour les services essentiels que vous utilisez. J'imagine que vous utilisez Facebook et un service de mail. Regardez un petit peu ce qu'implique la question de la double authentification avec cette information quand même qui est bonne à retenir que ça peut poser un problème si jamais vous perdez le deuxième facteur d'authentification, mais il faut quand même au moins regarder ça et je pense moi vraiment la mettre en place. Ensuite, le reste, ça peut être une question personnel. Mais pour moi, la double authentification, ça devrait être impératif pour tout le monde. Est-ce que toi, tu vas un petit peu plus loin ou quelle est ton approche de la chose, toi, Jérôme?
Alors, moi je dirais, bah, il y a aussi, comment dire, la sécurité, on parle d'hygiène numérique, il y a aussi faire ses mises à jour, ne pas installer n'importe quoi. C'est réfléchir quand on clique sur un lien. Typiquement, c'est on est sensibilisé au phishing. Moi, je vois, je te parle avec des personnes, je leur dis, ah bah, votre banque vous dit vite, 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 connectez-vous sur le site de votre banque. Votre carte bleue a été piratée. Est-ce que vous cliquez sur le lien? Et les personnes me répondent, non, parce que je sais qu'il faut pas le faire. Et là, je dis, mais comment tu sais que il faut pas le faire? Ah, parce que bah, je le sais. Oui, mais c'est quelqu'un te l'a expliqué. Et là, on voit que c'est de rentrer dans les mœurs le fait que la banque, on va pas se connecter dessus, c'est on va téléphoner ou se déplacer à sa banque pour savoir pourquoi la carte bleue a été piratée. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs.
Ou rentrer même le nom du site soi-même dans le navigateur
Ouais, c'est
plutôt
ça.
que
Voilà. Et
de
ça, c'est des
cliquer sur le lien qui arrivait par un mail qui a
Et
l'air
ça, c'est des
bizarre.
choses qu'on a appris. Qu'on a appris qui sont devenues des évidences. Et donc, la sécurité, c'est un petit peu. On peut apprendre beaucoup de choses. Après, c'est à chacun de déterminer. Voilà. C'est presque. Faut se poser les bonnes questions au départ pour trouver les bonnes réponses. C'est dire, voilà, là, on a eu un aperçu assez large de ce qu'il est possible de faire. Donc, c'est un petit peu. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de protéger? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et après, comme dire, bah, je vais essayer de donner les moyens de protéger. Comme on disait tout à l'heure, c'est un site, un compte sur un forum, bon, je mets un mot de passe plus ou moins complexe, ou bon, et si bah, comment dire, j'ai perdu l'accès à ce forum-là, c'est pas grave, de toute façon, j'y vais une fois que tous les 6 mois. Par contre, mon mail, où là, c'est toute ma vie numérique, c'est très important, donc là, double authentification et mot de passe un petit peu compliqué. C'est vraiment, en fait, à chacun de déterminer, voilà, qu'est-ce qu'il a envie de protéger et jusqu'où il est prêt à envie d'aller. Sa maison, ça peut être, on dit. En reprenant encore l'analogie de la maison, comment dire, je vais mettre un système d'alarme ou autre, ou je vais mettre comment dire, des volets en fer. Sauf que les cambrioleurs, ils vont voir quoi? Ils vont voir des volets en fer, ils vont forcer les volets, et puis bah ils vont pas réussir à rentrer, mais ils vont casser les volets en question. Et les volets en question, ils coûtent assez cher, et donc il va falloir faire jouer l'assurance, et puis bah alors que si c'était juste des volets en bois, peut-être qu'ils cassent le volet en bois, et puis bah ils vont rien trouver dans la maison. Bon, bah, comment dire, parce que j'avais rien à protéger de particulier, j'ai pas de bijoux ou autre, et puis bah, un volet en bois, c'est moins cher à réparer qu'un volet en fer. Donc c'est
Ouais, il y a vraiment tout un tas de
voilà, c'est un
configurations
peu,
différentes à
voilà,
prendre
c'est
en
ça.
compte.
C'est est-ce que j'ai plein de bijoux à protéger, bah, j'ai plutôt les mettre à la banque que les mettre dans un coffre-fort chez moi. Donc c'est à chacun de se faire son propre avis. Ce qui est important aussi, c'est de recouper les sources. C'est qu'on peut lire beaucoup de choses sur Internet. Il peut y avoir des tutoriaux qui datent un petit peu aussi. Donc faut regarder les dates de publication du tutoriel. Essayer de comprendre. On a vu qu'il y a pas mal de notions. C'est pas évident parce que c'est écrit par des techniciens pour des techniciens. Donc essayer d'aller comment dire dans des clubs informatiques ou de discuter de voir donc il y a
Ouais, c'est vrai
vraiment.
que là, tu t'adresses quand même à des gens qui sont vraiment impliqués dans la chose, et il est important qu'il y en ait aussi.
Tout à
Moi,
fait.
j'essaye de penser toujours aux gens entre guillemets normaux, qui vont pas forcément avoir le temps ou l'envie de s'intéresser à ce point à tout ça. Et c'est vrai qu'il y a tout un panel, tout un éventail de personnes, et effectivement, il faut servir entre guillemets tout le monde de manière différente. Donc bon.
Pour conclure, moi je vous dirais, je vous inviterai à lire si ça, pour les auditeurs que ça intéresse, il y a eu un article donc sur Slate, donc slate.fr, qui s'appelle "Voici à quoi ressemble l'internet d'un hyper prudent", où c'est donc une journaliste qui s'appelle Juliette Haro qui a interviewé un certain Aéris. Donc c'est une personne que je connais moi, qui co-anime avec moi les cafés privés, qui présente voilà sa journée type où lui utilise un ordinateur et on voit qu'il va très loin. C'est un petit peu comment dire il fait tout ce qu'on peut faire en termes de sécurité, il le fait. Et donc ça.
C'est un type, un petit peu le type, on imagine l'Américain dans son bunker, qui a stocké l'eau et l'essence
Voilà. Et
pour
donc là, ça donne
l'apocalypse,
un
quoi.
exemple à ce que lui, donc, est un activiste, comment dire, vraiment dans le sens noble du terme. C'est quelqu'un qui est impliqué. Donc, par exemple, il travaille sur les documents issus des révélations de Snowden. Donc, il a des contraintes, comment dire, en termes de sécurité, qui ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui a une vie numérique, on va dire ordinaire ou plutôt, comment dire, commune. Et donc là, ça donne un aperçu de jusqu'où on peut aller. Comment dire, en termes de sécurité. Bon, c'était juste pour citer ça, pour le côté, comment dire, pour montrer que voilà, on peut aller très loin. Mais c'est faisable au quotidien. Mais on voit lui-même l'explique. Bah, il y a des contraintes. Il utilise 3 mots de passe différents pour rien que se connecter à son ordinateur. Bon, je vous laisse découvrir ça. Donc vous cherchez. Voilà. Voici à quoi ressemble l'internet un hyper prudent. Peut-être que Patrick mettra le lien dans les notes de l'émission.
C'est effectivement sur slate.fr. En cherchant ce titre, on le trouve tout de suite.
Voilà. Et sinon, est-ce que tu me permets de faire de la publicité pour un podcast concurrent? Peut-être pas concurrent,
Mais
disons
bien sûr.
complémentaire.
Non, mais toujours, toujours. Je vais
Ouais.
juste. Bah, vas-y,
Vas-y.
écoute, je ferai
Ouais.
ma conclusion après. Vas-y.
Ouais, d'accord. Et donc j'invite les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est, comment dire, problématique de sécurité, à écouter le podcast qui s'appelle Le Comptoir Sécu. Donc le comptoir, comme un comptoir, CQ, SECU. Donc c'est des gens qui travaillent dans le milieu de l'informatique, qui sont donc issus d'une école d'ingénieurs de l'informatique, qui abordent différentes problématiques de la sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout une approche activiste ou de personnes impliquées comme ça. C'est vraiment, eux, ils ont des contraintes professionnelles, donc ils ont un regard plutôt neutre et intéressant, où ils expliquent, voilà, c'est quoi un token, c'est quoi... Ils ont parlé de gestionnaire de mots de passe, ils ont fait toute une émission qui était dédié à ça. Donc si vous voulez compléter tout ce qu'a dit Patrick, qui était déjà très fort intéressant, bah, il y a une émission là-dessus. Ou ça peut être par exemple ils ont fait un hors-série sur la crue de la Seine, voilà. Il y a la Seine est en crue, qu'est-ce qui se passe? Et donc comment on gère l'aspect sécurité? Donc ça va au-delà de l'aspect mot de passe, etc. C'est quoi des sauvegardes en entreprise ou autre. Donc le comptoir sécu qui est un bon complément, au rendez-vous tech qui survole et qui aborde la tech dans plus général. Là, on est plus ciblé sur un côté sécurité. Voilà.
Super, ça a l'air vachement bien. Je suis sur le site comptoirsécu.fr. Effectivement, ça a l'air super intéressant et je vois cet épisode sur la crue de la Seine. C'est une approche hyper intéressante de la chose. Effectivement, c'est pas mal du tout. Donc, merci de ce conseil. Et toi, voilà. Peut-être. Bon, on va continuer et puis je te demanderai de nous dire où on peut te retrouver, justement, et ce que tu fais. Avant, quand même, de conclure l'émission. Je vais encore remercier les auditeurs qui ont choisi de soutenir le podcast. Vous le savez, sur Patreon, on en parle régulièrement. Vous pouvez contribuer financièrement à l'émission et il y a plein de gens qui choisissent de le faire et j'en suis infiniment reconnaissant. Donc j'en profite pour remercier encore Tristan, Vincent, Snowdy, Laurent, Berwerts, Olivier, Christophe, Cazo, Fred Motta, Franck Matignon et Ludovic qui ont tous choisi de contribuer donc à l'émission. Vraiment, je le répète à chaque fois, hein, mais je le pense hyper sincèrement, vous êtes ceux qui permettez à cette émission d'exister, vous êtes ceux qui permettez à Patrick de manger, de faire, de vivre de cette passion qui est une vraie passion, je pense que vous le comprenez. Et il y a des gens qui choisissent, qui apprécient suffisamment l'émission, qui pensent qu'elle leur apporte quelque chose et qui choisissent de se dire une émission comme ça représente du travail, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'énergie et je pense que ça vaut tant, un petit dollar par épisode, 2, 3, 4, 5, il y en a qui donnent même beaucoup plus, mais ce que l'émission vaut pour vous, si vous pensez que c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose, pensez peut-être, comme vous pensez à vous activer la double authentification peut-être, dites-vous, est-ce que je voudrais participer au fonctionnement de l'émission, rejoindre la formidable communauté des patriotes. Et pour ce faire, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. J'ajoute que je suis en train de découvrir quelque chose. Je pense que d'ici, on enregistre l'émission un petit peu à l'avance, d'ici à ce qu'elle soit diffusée, j'aurai fait un petit message justement réservé aux patriotes pour leur parler d'un truc que je découvre qui est le bonheur du télétravail et le fait de commencer à travailler justement pour les podcasts et de travailler vraiment à mon de chez moi et finalement grâce aux merveilles de l'informatique, là je suis en Finlande en fait à la campagne finlandaise. Et il me suffit d'avoir mon ordinateur, mon micro et une bonne connexion Internet. C'est le cas en Finlande parce qu'ils sont hyper avancés pour le net. Et là, donc, je suis à la campagne et je fais du télétravail de manière aussi efficace que je pourrais le faire à la maison de chez moi. Je suis autant sur Twitter, je suis les news tous les jours, j'écoute tous les podcasts que pour ma veille, je suis toutes les infos, je suis aussi sur Facebook pour le boulot, etc. J'enregistre toutes les émissions. D'ailleurs, c'est deux grosses semaines ou trois grosses semaines qui viennent de s'écouler avec la WWDC dont on a parlé dans l'épisode précédent, le rendez-vous jeu dans lequel on a couvert la conférence E3 qui était énorme. Et tout ça, je l'ai fait en télétravail, et je pense qu'on a vraiment en France, à tous les niveaux, une attitude qui est un petit peu encore en retard sur le télétravail que ça apporte. Alors, c'est peut-être pas adapté à tout le monde, mais il y a énormément de gens qui pourraient améliorer leur qualité de vie et donc leur plaisir à travailler dans une entreprise en télétravail, et que c'est encore quelque chose qui est un petit peu regardé avec méfiance, le télétravail, et je trouve ça vraiment dommage. Moi, je pensais pas... Alors, je savais que j'allais travailler de chez moi et que je pourrais travailler n'importe où, mais là je découvre le bonheur de faire ça, et je pense que si vous êtes dans une entreprise, peut-être même à un poste à responsabilité, intéressez-vous là encore au télétravail. C'est quelque chose de qui se pratique beaucoup en Finlande, qui commence à se pratiquer dans certaines entreprises en France, et ça apporte une qualité de vie à vos employés qui est assez incomparable, quoi, franchement. Donc moi je remercie mes patrons, mes patriotes, de m'autoriser à télétravailler. C'est quelque chose, c'est vraiment une grande richesse, et j'aimerais que tout le monde puisse en bénéficier. Donc commençons cette réflexion en France. Là aussi, le net et la technologie nous permettent de travailler de manière incroyablement efficace en télétravail, donc il n'y a pas de raison de s'en priver dans un bon nombre de cas. Je sens que tu as quelque chose à dire sur le sujet aussi, Jérôme.
Oui, je voulais dire, avec les VPN, on peut faire du télétravail. Voilà, mm-hmm. Comme ça, la boucle est bouclée.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Bon, et donc, justement, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet et ailleurs?
Alors, mon blog, c'est le blog de Genma, G-E-N-M-A. Vous cherchez ça, vous le trouvez très facilement. Et sinon, sur Twitter, donc Twitter, @Genma, G-E-N-M-A, où je parle de plein de choses, donc de tout ce qui m'intéresse autour de la vie privée, mais aussi de choses geek, parce que je suis un geek, de tech aussi, parce que j'aime bien la tech, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter, puis on verra pour approfondir les sujets qu'on a pu aborder là de façon pédagogique et plus ou moins simple, parce que comme on a dit, toujours pareil, c'est plus c'est compliqué, plus c'est sécurisé. Donc voilà.
Super. Et aussi, tu as tes interventions, enfin tes groupes parisiens peut-être pour ceux
qui.
Oui,
pareil. Donc moi, j'interviens essentiellement donc en région parisienne. Donc c'est cafévieprivée.fr. Donc c'est je sais jamais. Donc c'est café avec les accents -vie-privée avec les accents .fr, où vous retrouvez toutes les dates des interventions de notre collectif. Les prochaines, ça sera donc lors de Passage en scène, qui est quelques jours de conférences hacker. Donc on aura un certain nombre de personnes qui seront là pour parler de tout ce qui est vie privée. Donc on a fait aussi des interventions, donc la dernière fois c'était à l'Ubuntu Party. Donc c'est essentiellement à l'heure actuelle dans le milieu informatique libre, on va dire Linux, etc. pour l'instant. Mais si vous êtes intéressé pour une intervention dans une médiathèque par exemple, pour aller à la rencontre du grand public, n'hésitez pas à nous contacter, donc café-vieprivée.fr.
Voilà. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Jérôme / Genma. Merci beaucoup de ton aide et de ton intervention dans l'émission. C'était, je pense, vraiment ce qu'il nous fallait pour initier les auditeurs à tous ces concepts un petit peu compliqués. Nous, on va se quitter. On revient évidemment dans 15 jours avec un nouvel épisode qui sera un vrai épisode d'actualité cette fois-ci, contrairement à ce troisième épisode du mois de juin, comme je l'avais précisé dans les épisodes précédents. C'est le troisième épisode. Une fois de temps en temps, le calendrier fait qu'il y a trois épisodes dans le mois. Donc, c'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui. Je vous invite évidemment à venir sur le blog de l'émission frenchspin.fr pour commenter cet épisode, nous dire ce que vous avez pensé, nous amener vos appréciations sur toutes ces questions qui sont complexes. Vous pouvez aussi y trouver le rendez-vous jeu, comme je le disais, où on vient de couvrir l'E3, qui est un énorme salon, le grand salon du jeu vidéo. Donc je pense que s'il y a un épisode du rendez-vous jeu, si vous intéressez un tant soit peu au gaming et que vous voulez une émission qui soit un peu comparable au rendez-vous tech, pédagogique, grand public et passionné à la fois, avec des informations générales sur ce sujet, c'est le moment d'aller écouter le rendez-vous jeu. Je pense qu'il vous plaira. Et puis voilà, on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode, et d'ici là je vous souhaite un excellent début d'été. Ciao à tous.
Au revoir tout le monde.